Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Galen, psychologue clinicien, psychanalyste, hypnothérapeute et vulgarisateur sur la chaîne YouTube Va te faire suivre. Bonjour Jérémy.
Bonjour Ben, ça va ?
Très bien, et toi ?
Ça va bien.
Comme tout début d'épisode, je vais t'inviter à te présenter un petit peu pour que les gens sachent mieux ce que tu fais. Et en plus, comme je te disais en off, typiquement, c'est le genre de truc, la psychologie, la psychanalyse, parfois les gens ne savent pas trop lequel est lequel. Donc c'est l'occasion en plus de te remettre un peu les choses au clair.
Ouais. Bah, du coup, je suis psychologue clinicien, ça c'est vraiment mon diplôme universitaire. Donc c'est un Master 2 et c'est encadré et validé par l'État français, notamment, et puis dans plein d'autres pays. Et le psychologue clinicien, lui, il a des méthodes diverses et variées qui lui sont enseignées et qu'il doit arriver à maîtriser pour vraiment un aspect thérapeutique, curatif. Après, le psychanalyste, lui, c'est pas quelqu'un qui a suivi une formation au sens universitaire du terme, c'est plus un travail personnel, une analyse personnelle auprès d'un psychanalyste pendant plusieurs années, et puis après faire partie d'un groupe de travail avec des pairs qui ont généralement plus d'expérience quand on commence. Mais le psychanalyste, lui, il cherche pas forcément à avoir un aspect thérapeutique et curatif, si tu veux. Lui, il va chercher à faire advenir le sujet vraiment de façon extrêmement large. On ne sait jamais, quand on fait une psychanalyse avec quelqu'un, on ne sait jamais là où ça va aller, là où il va aller. Alors que, si tu veux, c'est comme le psychologue clinicien, il va travailler avec des objectifs et des outils précis. Le psychanalyste, il va pas avoir un objectif précis, mais il va avoir une méthodologie qui permet à tout un chacun de pouvoir advenir en tant que sujet. Vraiment, ça peut paraître un peu ronflant comme terme, mais advenir en tant que sujet, c'est tout simplement le fait de devenir soi. Pas une version édulcorée de soi, pas une version aseptisée qui rentre bien gentiment et docilement dans la société. La position du sujet, c'est vraiment être soi-même, au sein des autres, dans le rapport à l'autre respectueux et en lien avec sa société dans laquelle on vit, mais en tout cas, être vraiment soi.
Ouais, la façon dont je l'ai toujours un peu compris, c'est que dans la psychanalyse, en gros, à chaque fois que tu vas ouvrir une boîte, on va dire, tu vas pas dire non, cette boîte là nous intéresse pas, on va plutôt aller par là.
Exactement.
C'est à chaque fois que tu veux le voir, tu dis ok, bah il y a un truc dans cette boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est comme ça que je l'avais compris.
Ouais, tu proposes, en tout cas tu soutiens la personne si elle veut continuer à ouvrir cette boîte, à aller voir ce qu'il y a dedans ou quoi que ce soit. Et si en revanche elle n'est pas encore prête, si ça lui fait peur, si tu la rassures, tu lui fais comprendre que c'est pas grave, comme tu dis, elle sait que c'est là. Après, elle n'est pas obligée de s'en charger tout de suite. Parfois, il faut passer par d'autres étapes avant d'aller vers les boîtes qui font peur, qui sont anxiogènes, qui peuvent déstabiliser un petit peu. Ouais, c'est une bonne métaphore.
Et du coup, tu fais aussi de l'hypnothérapie.
Et ça, c'est... Oui.
Mais alors, c'est quoi le rôle de l'hypnothérapie, justement, dans ta profession ?
L'hypnothérapie, telle qu'elle me l'a été enseignée, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qui est très thérapeutique, qui a un objectif précis. Il faut qu'on travaille sur un symptôme, sur une manifestation comportementale ou de pensée. Et en fait, alors moi, je suis, je sais pas comment est-ce qu'il faut le dire, si je suis soit un très mauvais hypnothérapeute, soit je suis suffisamment bon pour que, en fait, je ne fais pas de séance d'hypnothérapie, si tu veux, depuis que j'ai eu mes mes attestations comme quoi je pouvais utiliser ce titre-là. Je crois que j'ai dû faire depuis ce moment-là trois hypnoses, trois séances d'hypnose véritablement à visée curative pour une amie qui avait une phobie de l'avion. Et j'étais le premier à être surpris que ça ait fonctionné. Mais ça a fonctionné, quoi. Après, enfin voilà, une autre personne qui bégayait, je pense pas que ça ait très beaucoup fonctionné. Et puis le troisième, c'était pour un arrêt du tabac. Et je sais pas ce que ça a donné. J'ai pas eu de suite. Mais le truc que moi j'aime aujourd'hui dans l'hypnose, dans ma pratique à moi, c'est de faire des inductions en fait, comme ça en séance, l'air de rien. Et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur en tant que psychologue. Quand je reçois quelqu'un en séance aujourd'hui, je peux tout à fait intégrer des outils, vraiment comme ça, disséminer un petit peu dans la séance des petites choses d'hypnose. Et je trouve que moi, en tant que thérapeute, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça que le truc, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à ci, tout cet aspect-là. Je suis très attentif à la respiration de la personne, sa posture, comment est-ce que moi je me cale sur elle, tout ça, c'est des choses d'hypnothérapie, mais je le fais sans le dire à la personne, et puis je l'utilise vraiment comme ça, avec parcimonie, hein, par-ci, par-là dans les séances, mais pas comme un hypnothérapeute classique, quoi.
Ouais,
Et je
du
trouve
coup,
que
toi,
ça fait une bonne alchimie.
c'est plus comme une compétence passive finalement que ça t'a appris, quoi.
Ouais.
Enfin, même si tu le fais
C'est.
consciemment, bien sûr.
Ouais. Mais on ne fait pas tout consciemment, justement, dans les séances. Quand on a appris à travailler avec l'inconscient, on se rend compte qu'il vaut mieux le laisser faire parfois. Il est plus pertinent que nous, des fois.
Ben, ça, c'est sûr. Et c'est potentiellement un très bon épisode que tu pourrais faire sur ta chaîne. Va te faire suivre.
Ben, je pense que tu dis ça parce que tu sais que je vais faire j'avais posé la question justement sur Facebook et sur YouTube et sur Twitter sur quel serait mon prochain épisode. Et c'est vrai que j'ai été très surpris que il y a eu la majorité qui a voté pour que ce soit en priorité sur la psychopathie, sur les psychopathes. Mais juste derrière, à quelques pourcents du sondage en moins, en deuxième position, c'est l'hypnose qui a l'air de susciter pas mal de questions chez les gens. Ouais.
Alors, encore une fois, le commentaire de quelqu'un qui n'y connaît rien, mais je suis tenté de penser que c'est peut-être l'explosion je veux dire, de la médecine alternative, et je déteste ce terme. Mais malheureusement, il parle aux gens. Mais je
Ouais.
pense que l'explosion de la médecine alternative fait que des pratiques comme l'hypnose, qui souvent sont catégorisées dedans, à tort ou à raison, ça, j'en sais rien. Mais du coup, il y a un véritable engouement, en tout cas, pour ces pratiques autres. Et c'est pour ça, je pense, que l'hypnothérapie, surtout que je pense que ça a gagné en visibilité sur cette dernière décennie, en partie à cause du monde du spectacle. Mais
Oui, Mesmer, il y est pour beaucoup, ouais.
bah oui.
C'est clair.
Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, le premier, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 10 ans, je ne me serais même pas posé la question. Mais même pas. Hein. Tu m'aurais parlé d'hypnose, j'aurais dit OK, d'accord, super. Et maintenant que j'y ai été plus exposé par un terrain médiatique, je me dis, enfin, ma réflexion est plus la même, et je me dis OK, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose là.
C'est
J'y connais toujours
l'exposition.
rien, mais tu vois, je commence à.
Ouais, en psychologie
Voilà.
sociale, on appelle ça l'effet d'exposition. Plus tu es
Voilà.
exposé à quelque chose et plus tu vas avoir des affects positifs sur ce truc-là. C'est très exactement la méthodologie de la publicité. Plus on te
C'est ça.
montre un truc et plus tu vas avoir des émotions positives là-dessus. Il y a aussi un autre aspect, c'est que.
J'ai un contre-exemple par contre, hein, c'est la publicité MMA. Je l'ai tellement vu Je déteste cette entreprise. Et honnêtement, je ne sais même pas ce qu'ils font. Mais comme quoi, ça ne marche pas toujours.
ouais, c'est sûr. Bah, et si ça te tape sur le système par une petite musique ou un truc, tu vois, qui émotionnellement te met les nerfs, ouais, là, c'est un peu raté. mais par rapport à l'hypnose, je pense que c'est comme pour la méditation, par exemple, comme pour... Enfin, là, je n'ai pas d'autres exemples en tête, mais déjà, rien que l'hypnose et la méditation, depuis ces dernières années, ce n'est plus du côté de... du marabout, du chaman. En fait, il y a les méthodes d'imagerie médicale sont aujourd'hui en capacité de montrer ce que ça fait comme effet sur le cerveau, sur la neuroplasticité, c'est-à-dire sur comment est-ce que ça peut créer ou catalyser certains réseaux neuronaux. Et en fait, on arrive de plus en plus à objectiver et à montrer en quoi est-ce que ces pratiques qui sont très anciennes au final, qui ont été relayées. Tu parlais de médecine alternative, mais en fait, c'était la médecine de base pendant un temps. C'était la médecine et qui a perdu ses lettres de noblesse pendant un temps au profit d'autres choses qui étaient soi-disant plus objectives. Et aujourd'hui, bah, maintenant qu'on a des nouveaux outils, des nouvelles méthodes pour regarder en quoi est-ce qu'on peut mesurer les effets, on se dit, ah, bah, finalement, c'est pas si mal. Et donc, là, l'hypnose, il y a eu beaucoup, beaucoup les médecins, comment on appelle ça, ceux qui endorment les patients avant une opération.
Tu me poses une colle.
Ouais, non, mais... J'ai des petits trous de mémoire comme ça de temps en temps. Bref, ces médecins-là, ça nous reviendra plus tard.
Ouais, dans deux secondes.
C'est eux qui ont beaucoup, beaucoup, justement, comme tu dis, sur les 10-15 dernières années, aidé à valider et à rendre médical l'hypnose.
Ouais. Oui, d'accord, parce que ça peut être pratiqué, du coup, comme... Enfin, ça peut aider, en fait, à ce processus, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah ça a du sens, du coup. Bah, d'ailleurs, tu sais, d'un truc que tu disais juste avant, pendant qu'on essaie de retrouver quel est le nom de la spécialité en question, donc je te laisse réfléchir, mais je fais le pont par rapport à ce que tu disais, où on parle de... Tu disais médecine alternative, et en fait, avant, c'était juste la médecine. Ouais. Alors... Justement, j'y pensais vachement récemment parce que j'écoutais un autre podcast que je recommande vachement qui s'appelle « Et surtout la santé » de Étienne Bulidon. Et il a reçu Patrice Rey. Et Patrice Rey, c'est le créateur du Musée des croyances populaires et il est spécialiste des médecines paysannes. Et ils ont fait un épisode ensemble qui est absolument génial où Patrice Rey présente les médecines paysannes et comment, en fait... énormément d'entre elles, enfin ce qu'on a même pu appeler sorcellerie, énormément d'entre elles en fait ont en tout cas contenu le savoir qui est devenu notre médecine moderne. C'est-à-dire que ton médecin paysan ou ton sorcier ou ton peu importe comment tu voulais l'appeler à l'époque, ça dépendait des cultures.
Ou ta grand-mère
tout simplement, savait que telle herbe faisait telle chose. Mmh. Et donc on a fini par étudier cette herbe. On a compris qu'elle avait des propriétés particulières, on a fait un médicament. Voilà. Et la plupart de nos médicaments modernes, apparemment, prennent, enfin, pas tous, hein, mais une grande partie de nos médicaments modernes prennent leurs racines, en fait, dans ces médecines traditionnelles, ces médecines paysannes, cette sorcellerie. Et du coup, on peut vraiment remonter un peu dans l'histoire et voir d'où ça vient. Mais par contre, au passage, on trouve des choses qui, du coup, n'ont pas franchi le pont de la médecine ancienne à la médecine traditionnelle. Et alors, je vais le spoiler, mais franchement, il faut écouter l'épisode, c'est hurler de rire. C'est les curés chasseurs d'orage. Alors ça, c'est absolument magique.
Les curés chasseurs d'orage.
Ouais, les curés chasseurs d'orage. En fait, apparemment, on prêtait des vertus particulières aux curés, et comme quoi, ils pouvaient chasser les orages sur les communes voisines ou sur les... Enfin, ils pouvaient détourner les orages.
Ouais, donc,
ils soulevaient les curés dans un champ et le curé mettait des coups de pied dans l'air pour chasser l'orage. Enfin, j'adore l'image et ça m'obsède depuis. J'ai absolument envie de voir une reconstitution de ça.
Ouais, ça peut être pas mal. Hein, ouais. Mais ça, tu m'as donné envie de l'écouter, tu vois.
Ouais, il est génial cet épisode. Moi, j'ai vraiment flashé dessus. J'ai immédiatement contacté Étienne. Je lui ai dit, ah, il faut que tu viennes sur l'émission. Il faut absolument que je te parle de ça. Et puis je me suis dit, attends, je vais pas lui dire de refaire un épisode alors que c'est pas lui l'expert sur le truc. Je fais, ok, viens sur l'épisode, comme ça on peut en parler ensemble. Et puis on fera un truc sur quelque chose qui est plus pertinent. Ouais. Mais ouais, non, c'est génial en fait, parce que cette espèce de lien avec la médecine ancienne est vraiment intéressant. Et j'espère que tu en as profité pour rechercher la profession qu'on avait perdue.
Non, je t'écoutais parce que ça m'intéressait, mais non. Puis,
anesthésiste,
comme tu dis,
bim,
ah, et putain, hop, voilà. Bien joué.
Ah, j'ai gagné.
Je suis incapable quand j'ai un trou de mémoire, et ça m'arrive aussi en séance. Hein.
Ouais.
Et quand j'ai un trou de mémoire, c'est pas possible, je peux pas récupérer. Mmh.
Ça m'est déjà arrivé d'oublier des trucs que je dis genre 5 fois par jour, et, ouais. Et au milieu d'une conversation, boum, coincé.
Et du coup, tu vois, moi, j'avais un mot barrière, et à partir du moment où j'ai un mot barrière, je sais que je suis foutu. Et moi, j'avais médecin réanimateur en tête, qui est l'antagoniste de l'anesthésiste. Et du coup, bah, vu que j'avais réa en tête, c'était pas possible d'avoir celui-là. Donc après,
pourquoi c'est pas un désanimateur? Des questions.
Voilà.
Alors, puisque je pourrais dire des conneries toute la journée,
moi aussi.
On avait un thème qu'on s'était fixé pour aujourd'hui. Parce qu'il y a un bouquin que j'ai lu, que je trouvais. Moi, il m'a parlé. C'est un livre qui s'appelle donc en anglais Lost Connections, et traduit en français comme Chaque dépression a un sens. Parce que je trouve qu'il y a nettement moins de charme. C'est-à-dire l'idée des connexions perdues, j'ai trouvé ça super en anglais. Et le titre en français, il est un peu tristoun. Mais bon, ça a été écrit par un journaliste qui s'appelle Johan Hari, j'imagine que je prononce ça correctement, ou Johan, je ne sais pas. Et c'est un livre où il s'est intéressé en fait à la dépression. La dépression et l'anxiété, pour être très précis. Et donc, il a parlé avec des chercheurs, il a parlé avec des spécialistes du sujet, et il a présenté la dépression sous un jour peut-être un petit peu différent de ce qui est fait d'habitude. C'est-à-dire qu'il en a moins parlé comme une maladie et plus comme une condition de l'homme exposée à certaines situations. Et en tout cas, je recommande le bouquin, c'est assez intéressant, surtout si vous ou des proches, du coup, souffrez de dépression, parce que il y a quand même quelque chose, on sent le vécu, donc c'est un témoignage, c'est assez intéressant, parce qu'il parle beaucoup de sa propre expérience. Et aussi, lui, il décide de pas trop parler du traitement médical, ou en tout cas médicamenteux, de la dépression, parce qu'il considère que c'est pas la bonne voie. À tort ou à raison, c'est pas à moi de juger. Mais il s'intéresse à quelles pourraient être, du coup, les racines d'une dépression, c'est-à-dire où est-ce qu'elle pourrait avoir lieu. Et dans son livre, il étale plusieurs axes, on va dire, plusieurs causes assez importantes qui pourraient mener à une dépression et à de l'anxiété. Donc, et tu me diras si je me trompe, mais moi, j'ai toujours séparé dépression et anxiété comme ça part du même truc, sauf qu'il y en a un où tu dis « on ne peut rien faire », et l'autre où tu dis « mon Dieu, tout va mal se passer ». Donc, en fait, c'est un peu deux réactions différentes. Je suis sûr que j'ai faux, mais ce n'est pas grave. Mais en gros, pour moi, c'est juste deux façons différentes de réagir à un même stimuli. En gros.
Moi, de ce que j'observe, moi, je ne suis pas un universitaire ou je ne suis pas un théoricien ou quoi que ce soit. Moi, je pense que ma véritable force en tant que psychologue, elle est que je suis vraiment clinicien, c'est-à-dire que j'utilise ce que disent les gens, ce que je repère dans mon boulot. Et ce que tu dis n'est pas faux par rapport à déjà dans un sens, la dépression, c'est à quoi bon, je laisse tomber, il n'y a rien à faire. Et puis l'anxiété, c'est oh là là, on va tous mourir.
Il faut absolument que je fasse quelque chose, justement.
Voilà. Moi, ce que je repère justement chez mes patients, c'est que c'est d'abord l'anxiété, ensuite la dépression. L'anxiété, comme l'angoisse, comme des manifestations comme ça, ça épuise le psychisme.
Ouais.
Mais vraiment, c'est comme si on avait une jauge d'énergie. Et en fait, les problématiques psychiques, dans un premier temps, peuvent nous épuiser. Et vraiment, moi, ce que j'ai repéré chez mes patients, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, à force d'épuiser leurs ressources psychiques, eh ben, on n'a pas le choix. La dépression est un moment, est une conséquence, un petit peu, si tu veux, où c'est comme si il fallait que la personne n'était plus en capacité de faire quoi que ce soit, de se mettre en mouvement pour quoi que ce soit, d'investir quoi que ce soit dans sa vie. Et pour que ben, peut-être que cette jauge d'énergie puisse remonter un peu. Mais enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu vois, c'est pas faux ce que tu dis. C'est plus que moi, je le mettrais dans une temporalité,
Ouais.
dans une continuité, en fait.
Ouais, mais ça, oui, ça c'est sûr. Bah, 60 ans, on va y venir. Je vais présenter un petit peu les sujets que du coup j'ai retenus pour qu'on puisse les décortiquer. On les fera petit à petit. Voilà, on rentrera un peu. De toute façon, ils sont tous un peu interconnectés. Mais l'idée, c'est que dans ce bouquin, on présente donc différentes causes possibles de la dépression et de l'anxiété. Et donc, je vais les lister. Puis, on pourra petit à petit y venir. Donc, selon lui, en tout cas, il prétend pas avoir fait un truc exhaustif, hein, mais il identifie certaines causes sociales, existentielles, hein, qui pourraient du coup être derrière du coup la dépression et l'anxiété. Et donc, ça serait un travail vide de sens auquel on consacre d'interminables heures. Enfin, tu vois, en gros, tu passes ton temps à cravacher pour finalement quelque chose qui n'a pas de sens. Ensuite, tu as la perte du lien social, ou justement le fait de se sentir seul, ou d'être en fait déconnecté de ton univers, donc pas de connexion aux gens, et d'où clairement le titre du livre, Lost Connections. Et ensuite, un matérialisme exacerbé, et qui te détourne du coup des valeurs un peu plus fondamentales, qui peuvent être justement bah, la communauté, enfin, et du coup, ce matérialisme te rend de plus en plus insatisfait. Ensuite, le rejet de certains traumas infantiles et les effets dévastateurs qu'ils peuvent avoir sur la construction de ta personnalité. Donc, forcément, je pense qu'il nous vient tous un peu à l'esprit les notions d'abus, de viol, de choses comme ça. Et enfin, tu as sûrement dû rencontrer des gens dans ton
Et
milieu qui doivent être dans cette situation-là.
des traumatismes, parfois, ça peut être des choses beaucoup plus, enfin, beaucoup moins extraordinaires, hein.
Oui.
Ça peut tout à fait être pour un enfant le fait que ses parents ils partent 15 jours en vacances et que lui, pendant 15 jours, il se dit, mais est-ce qu'on m'a abandonné? Ça peut faire trauma aussi. Il n'y a pas
Ouais.
besoin de faire dans l'extraordinaire pour avoir un
Bien sûr.
traumatisme infantile.
Voilà. Mais en tout cas, c'est le fait de rejeter, enfin de nier en fait ces traumas infantiles. Et ensuite, donc, comme autre cause, tu as la perte du lien avec la nature. Alors ça, c'est un truc que je considère vraiment, vraiment important, même si c'est pas forcément celui qui est le plus développé dans le bouquin. Mais on a finalement beaucoup parlé de la reconnexion avec la nature déjà sur le podcast avec des gens qui sont juste passionnés de nature. Donc, je pense que ça montre aussi que même si c'est pas à mettre dans les causes de la dépression et de l'anxiété, même si on décidait hein, que ça l'était pas, même si je pense que ça devrait l'être, il y a clairement un besoin. Enfin, tu vois des gars qui ont des hommes ou des femmes qui ont 40 balais et quelques, et puis qui tout d'un coup redécouvrent la nature, on dirait des enfants de 12 ans. Enfin, tu te dis, il y a un truc, quoi. Et ensuite, il y en a un autre qui est la difficulté de se projeter dans le futur, en fait. Donc, ça peut être, et je pense qu'on est en plein dedans en ce moment, les exemples qu'il y a, c'est situation politique ou sociale, des trucs, tu vois, où tu as l'impression que de toute manière, tu vas droit dans le mur, tu as l'impression qu'il n'y a pas de demain. Et là, en ce moment, bah, je pense que tout le monde doit expérimenter, enfin, vivre un petit peu un truc comme ça, parce que tu es un peu en train de te dire, bah, écoute, au mois d'août, je fais quoi? Bah, peut-être que je fais rien, en fait. Et au mois de septembre, ben, je sais pas. Est-ce qu'il y aura Noël cette année? Enfin, tu vois, tu sais même pas ce qui va se passer cette année. Donc, c'est sûr que voilà, on est un peu là-dedans. Pour ceux qui seraient en train d'écouter cet épisode dans des années, nous sommes donc au mois de mai 2020.
2020.
Donc, nous sortons du confinement qui a duré quelques
Numéro 1.
mois. Oui, s'il n'y en a pas un deuxième, voilà. C'est pas exclu, en tout cas, à ce stade. On était confinés 2 mois, donc forcément, c'est des questions qu'on se pose. Mais voilà. Vous saurez peut-être, vous du futur, saurez peut-être ce qui se passe à Noël. Nous, on ne sait pas encore. On est un peu dans la situation de ne pas pouvoir trop se projeter dans le futur. Voilà, donc ça, c'est les points qu'on va couvrir un peu aujourd'hui. Je voulais, en fait, du coup, ce qu'on fasse, c'est qu'on les décortique et qu'on les regarde et comment ils peuvent influer justement sur notre état psychologique pour essayer de les positionner par rapport à une dépression ou par rapport à autre chose. Mais voilà, est-ce que effectivement, ça, c'est quelque chose qui est essentiel? Est-ce que on a une bonne connaissance clinique de ce genre de choses? Est-ce que c'est vraiment étudié? Est-ce que c'est inconnu? Tu vois, les trucs comme le lien avec la nature, j'ai l'impression que bah, c'est pas forcément, enfin, c'est encore tout nouveau. Tu vois, on commence tout juste à avoir. Il y a des mecs qui ont découvert que les arbres se parlaient. Tu vois, enfin, c'est tout nouveau. Bref, on va les faire. Pas forcément dans l'ordre, on verra un petit peu, mais je pense qu'il y en a un qui parle à tout le monde et j'ai l'impression que c'en est un qui revient de plus en plus en ce moment, en partie à cause de cette situation de confinement où les gens se retrouvent déconnectés de l'environnement social, du travail, ou même partiellement, c'est le travail vide de sens.
Je pense que ça a même pas attendu cette histoire de confinement,
C'est
de
vrai.
Covid-19 ou quoi. C'est que le travail vide de sens, c'est quelque chose qui, nous, nos patients, moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant que je suis diplômé et que je reçois des patients. C'était déjà là depuis un moment et puis ça s'est accéléré. Tu vois, au moment de la crise où il y a eu tous les suicides chez, je sais plus si c'était déjà Orange ou si c'était encore France Télécom,
Bon, pour
je
moi,
sais
ça
plus.
reste un peu la même entreprise, en fait. Mais
Oui, c'est la
je
même
sais qu'il y a une
entreprise,
distinction, donc. Mais
mais
oui, ça
c'est.
s'appelait déjà Orange, en tout cas.
Moi, je crois que c'était les suicides de France Télécom, mais bon, bref, on s'en fiche. Ce qui est
Oui, c'est
important,
ça,
c'est
mais
que.
je crois que c'est. Enfin, je peux me tromper, parce que j'ai pas vraiment lu le truc en détail. Mais en gros, c'était dans l'organisation Orange, et du coup, parce qu'ils n'avaient pas envie de dire que c'était Orange, ils ont dit que c'était la partie France Télécom. Je sais
D'accord.
pas, j'en sais
Pour
rien, en
pas
fait.
salir l'image, ouais,
Je sais pas, je
peut-être.
dis des conneries de toute
Ce
façon la moitié du temps.
serait en tout cas stratégiquement
Ouais.
et en termes de
Mais
marketing,
il me semble
ce
que
serait
tu as
entendable.
raison. Il me semble que tu as raison, c'était bien côté France Télécom en tout cas. Parce
Et
qu'il y a quand même une différence entre les deux structures. Hein.
Mais du coup, le travail vide de sens, ça existe depuis longtemps. Après, surtout les travaux manuels, hein, je trouve que quand ils ont commencé à faire le travail à la chaîne, en fait, à partir du moment où toi, ce que tu fais, c'est juste faire un trou dans une pièce et que le mec d'à côté, lui, il visse un truc dans ce trou et que le mec d'encore à côté, lui, il met dans une boîte. Les trois, ils sont en train de bosser sur le même truc, mais ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Et donc, en tant qu'êtres sociaux, en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres qui sont quand même là pour penser, hein, il faut le rappeler, on est Homo sapiens, là, tu penses quoi? Tu vois, c'est tu te robotises, tu te coupes de toute utilité dans le temps. Quelque part. Et ça, c'est un aspect fondamental, hein, de ce qui peut déprimer quelqu'un. Quand tu dis travail vide de sens, il faut pas oublier que toujours dans la dépression, il y a le moment où tu as l'impression que tu n'as plus de prise sur ton environnement, que tu n'as pas la mainmise sur les conséquences de tes actes, donc voilà, c'est vraiment une perte de sens au sens général du terme. Et donc quand tu vois que ben c'est 7-8 heures par jour un boulot, si déjà la perte de sens elle se fait sur un tiers de ta journée, sur 5 jours sur 7 de ta vie, sur je sais pas combien de semaines par an, c'est gigantesque. Donc on met les gens dans une situation où ne peuvent plus avoir cette sensation que ce que je fais, c'est pour le bien de telle personne, c'est pour le bien d'autrui et tout. Alors des fois, il y a certaines entreprises qui essayent de leur rappeler, hein, le sens, mais quand c'est trop décorrélé de la réalité, c'est impossible.
Ouais.
Je reçois pas mal d'infirmières et d'infirmiers. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, hein, mais en tout cas, j'en reçois pas mal. Et ils vivent, eux, cette difficulté-là, alors qu'ils travaillent directement avec des êtres humains. Tu vois, c'est que eux, ils sont aujourd'hui, et vraiment depuis 3-4 ans, surtout depuis 3-4 ans, j'ai vu ce changement se dire de plus en plus dans mon cabinet, qui est on fait des actes. Tu vois,
Ouais.
ils font pas,
Ouais. Ils soignent pas, ouais, c'est ça.
ils soignent pas une personne pour quelque chose ou quoi. Ils font des actes. Ils le disent comme ça, ils le disent pas autrement, et que ces actes-là, en fait, ils en sont à un point où, vu qu'il faut qu'ils soient rapides, efficaces et surtout productifs, en fait, ils se retrouvent dans ce truc où ils sont en train de faire un acte avec quelqu'un. Ils sont pas en train de le soigner, ils font leur acte et ils sont en train de penser aux actes d'après. Comment est-ce qu'ils vont faire rentrer ça dans le temps qu'il leur est imparti? Parce qu'ils savent globalement qui c'est qu'il y a dans la salle d'attente, pour quelle problématique. Chaque fois qu'ils vont au secrétariat, ils savent les dossiers qu'il y a sur la table et tout. Donc, ils sont dans une espèce de robotisation où ils se disent, tel acte, je vais en avoir pour tant de temps, tel acte, je vais en avoir pour tant de temps, tel acte, je vais en avoir pour tant de temps. Donc, si je fais ça, ça, ça et ça, je peux prendre ces trois dossiers-là et je peux le faire en tant de temps. Et donc, du coup, après, je peux, enfin, voilà. Donc, c'est même pas que le manard dans son usine qui taraude des pièces toute la journée. C'est comment est-ce que le monde, en tout cas le monde occidental, parce que je peux pas parler de ce que je connais pas, mais le monde occidental aujourd'hui amène ce vide de sens par le fait qu'on priorise d'autres aspects. Donc voilà. C'est un vrai problème, quoi.
Pour ce qui est de ce que tu disais sur justement cette notion en fait de gestion de tâches et aussi la vision du travail, je pense qu'il a énormément évolué. Enfin, là, moi, je peux raccorder ça directement à une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé autant en entreprise, hein, donc sur, enfin, on va dire appeler ça d'un travail de bureau, hein, rien de particulier, mais j'ai aussi travaillé en cuisine. Donc avant ça, ça a été un de mes premiers métiers avant d'aller trouver un vrai travail, hein, n'est-ce pas? Et donc il y avait pourtant, tu vois, enfin tu vas te dire, bah, tu travailles dans une cuisine quoi, tu vas manger, il n'y a rien de particulier, c'est assez, on va dire assez peu remarquable, tu vois. Et ensuite tu peux dire, bah, je travaillais pour une grande entreprise. On distribuait des produits dans le monde entier, on touchait des millions de vies. Et bah, tu sais quoi, le travail où j'avais le plus de sens, c'était dans ma petite cuisine. Et déjà, parce que quand je devais expliquer ce que je faisais aux gens, en fait, c'était extrêmement simple. Ils disaient, moi, je fais à manger. Je fais à manger pour les gens. Je fais en sorte qu'ils passent un bon moment quand ils viennent manger et qu'ils mangent quelque chose de bon. Voilà, c'est à peu près ça. Hein, mais en gros, je fais à manger. Je fais à manger. C'est quelque chose de nécessaire à la vie. Si plus personne faisait à manger, on serait un peu embêté quand même. Et je parle pas juste des restaurateurs. Je parle globalement, si tout le monde arrêtait de faire à manger, on serait un peu dans la merde. Donc, en revanche, ce que j'occupais, le poste que j'occupais au niveau de cette grande entreprise qui faisait des produits du coup internationaux, etc. Bah, concrètement, personne n'en a vraiment besoin. Si moi j'arrêtais de le faire, l'entreprise se porterait très très bien, trouverait juste quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Et si l'entreprise arrêtait de le faire, le reste de l'humanité se porterait encore toujours très 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 bien. Il se passerait rien du tout, ça n'aurait aucune incidence sur nos vies quelconque. Et ça, c'est le truc aussi de cette notion de perte de sens, parce que alors c'est pas le podcast pour faire un épisode sur les bullshit jobs, mais clairement il y a beaucoup d'emplois en fait qui n'apporte pas grand-chose à la société, ou parfois même les entreprises entières, apportent finalement peu de choses à la société. C'est juste que on est, et du coup je pense qu'on pourra faire le lien avec cette notion de matérialisme. Parfois, je sais pas, peut-être que j'en sais rien, après je sais à peine ce que c'est, mais les fidget spinners, ces petits trucs qu'on fait tourner sur un doigt, là, j'en ai jamais eu dans la main, donc je sais même pas vraiment ce que c'est, mais je me dis que l'entreprise qui fait des fidget spinners pourrait se targuer d'apporter du divertissement au monde. Mais encore une fois, si tu es le, je sais pas, le responsable médias sociaux des fidget spinners, peut-être que tu... Je suis désolé s'il écoute, franchement, c'est rien de personnel. Mais tu vois, je me dis peut-être que tu vas te dire, je sers à quoi, tu vois. Et attention, je tiens à dire, j'ai occupé ce genre de poste, donc je sais, je me suis posé la question, hein, je suis pas en train de taper sur quelqu'un gratuitement.
C'est ça qui est fondamental, c'est qu'à un moment donné, tu t'es posé la question, et ça, je pense que c'est pire que si tu te la poses pas. Si tu te la poses pas, tu peux tout à fait te continuer tel quel, tu vois, comme on dit, la tête dans le guidon, quoi. Pas de problème. Bah,
c'est souvent ça, en fait. C'est dès lors qu'il y a eu un temps mort et que j'ai eu le temps de... Enfin, encore une fois, je rapporte ça à mon parcours, hein, parce que déjà, on est que deux, donc je peux pas prendre quelqu'un d'autre comme exemple. Mais du coup, voilà, c'est ça. C'est, en fait, je pense... Et aussi, ça fait... Enfin, mon vécu, je trouve, finalement, ressemble à rien d'exceptionnel parce que je l'ai retrouvé dans d'autres témoignages. Donc, mais c'est ce truc où tu... Tout d'un coup, t'as la tête dans le guidon, t'es débordé parce que, bah, je sais pas, t'as un boulot, quoi. Enfin, t'es occupé toute la semaine. Et à un moment, t'as le temps de réfléchir. Et là, il y a là, putain, le choc.
Ah bah voilà, tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question, c'est quoi la psychanalyse ? Bah, la psychanalyse, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est se poser des questions, prendre ce temps, se poser, s'allonger avec quelqu'un qui te regarde pas dans les yeux, qui te laisse, qui te juge pas, qui fait que tu vas te permettre de te poser ces questions qui, normalement, tu fonces tête baissée et que tu te poses pas. Et quand tu te rends compte que fondamentalement, attention, ce que je suis en train de faire, ça n'a pas vraiment de sens, ça peut être dépréciogène, ça peut être anxiogène, ça peut remettre en question des pans entiers de ta vie, mais je suis fondamentalement convaincu qu'il vaut mieux se les poser, ces questions, quand même.
Oui. Et d'ailleurs, la notion de sens, en plus, c'est pas... Enfin, chacun a sa propre définition du sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'idée de contribuer quelque chose au monde, mais tout le monde ne partage pas cette vision, et donc ne va pas forcément trouver le même sens. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais considérer que... faut que je tape sur quelqu'un d'autre, là. J'ai pas arrêté de prendre le marketing comme exemple. Je sais pas... On va dire les responsables partenariats d'une entreprise d'IT. Moi, je vais trouver que... Finalement, si cette profession n'existait pas, ça ne changerait pas grand-chose. Et bah, d'autres personnes ne vont pas être d'accord avec moi, et c'est leur droit. Voilà. Donc, c'est aussi cette définition du sens, je pense aussi, est très personnelle. Ça va dépendre de tes valeurs, des choses. Enfin, tout est une question de point de vue là, à ce niveau-là. Mais donc, ce sens, effectivement, c'est, je pense que c'est surtout le fait de se dire, ce que je vois derrière, c'est, tu définis le sens par... Au bout de toutes ces années où je vais travailler, donc tu vois, du début de ma carrière jusqu'à ma retraite, quand j'aurai fini, est-ce qu'on dira, ah, Ben, il a fait ça, tu vois, ça c'est le truc de Ben, tu vois, et les gens qui arriveront derrière moi, est-ce qu'ils vont dire, ah, c'est le truc que Ben, il a fait, tu vois, ou pas forcément mon nom, tu vois, c'est pas forcément mon nom à poser dessus, mais ils vont pouvoir identifier en fait ma contribution,
ouais,
donc tu vois, parce que. Dans une grosse boîte, personne ne va dire « Oh, c'est le truc de Gérard qui a pris sa retraite il y a 15 ans. » Non, ça n'existe pas comme ça. Mais par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va du coup prendre le fruit de mon travail et dire bah, « c'est une chose concrète, j'ai véritablement contribué à quelque chose » plutôt que juste de finalement avoir un impact négligeable sur l'ensemble peut-être.
Mais du coup, ça me fait complètement faire le lien aussi avec comment est-ce que, tu vois, dans ta définition du sens, tu vois que tu vas le chercher dans le rapport à l'autre. Tu vois, c'est pas ton sens à toi, tel que tu le dis. Alors, excuse-moi, hein, sans faire exprès des formations professionnelles, je t'ai écouté comme en tant que psy, je pense. Et du coup, ce que j'ai entendu surtout derrière ton discours, c'était... moi, je pose du sens à travers le regard et le retour de l'autre.
Donc, bah, sûrement, oui.
Si t'as pas ça, c'est compliqué quand même. C'est je pense que ce qu'on doit faire dans notre vie, que ce soit du travail ou pas, hein, est-ce qu'on doit apporter de la valeur simplement pour soi? C'est-à-dire le gars qui va bosser pour avoir son salaire et qui rentre chez lui et qui n'en a rien à faire. Soit ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour apporter de la valeur au monde, aux autres, pas seulement à soi. Et ça, c'est fondamental aussi d'avoir cette conscience, ce rapport au monde, de se sentir avoir une place dans le monde et pas simplement, tu vois, être au centre. C'est un petit peu du narcissisme quelque part. C'est comment on peut être épanoui en étant, en se sentant avoir une place dans le monde et pas juste en se créant sa petite place, enfin voilà quoi, en se coupant de l'autre. Je pense que ça transcende le cadre du professionnel.
Ouais, c'est vrai que ce truc d'avoir une place, en fait, oui, parce que là, on a parlé d'un travail vide de sens, mais en fait, tu pourrais aussi te poser la même question si tu n'avais pas d'emploi. Donc, enfin, c'est. Mais ce truc, je pense que tu as raison, c'est le bon terme, c'est cette notion de place, cette sensation d'avoir une place dans le monde, en fait. C'est vrai que moi, je suis la personne qui fait ça, tu vois, c'est moi, c'est tout, c'est dans mon environnement, dans mon monde, parce que, en fait, ton monde, finalement, n'est que ce que tu touches. Hein,
Ce que tu te représentes.
c'est-à-dire que mon monde et la planète, oui, mais d'un point de vue purement concret, mon monde et l'environnement autour de moi, les gens, les lieux avec lesquels j'interagis finalement peu avec le Kapchenka, par exemple. Donc ça, c'est pas vraiment mon monde, même si j'en ai conscience que je m'y intéresse. Mais donc mon environnement immédiat, donc ça, c'est mon monde. Et là, j'ai une place là-dedans, c'est-à-dire que je suis un citoyen, j'ai telle profession, je fais ça pour d'autres, tu vois, enfin, ou voilà, mais
On a ce besoin-là qui nous spécifie, je pense, en tant qu'être humain. En tout cas, là, c'est vraiment quelque chose qui relève de mon point de vue. C'est qu'on a besoin de s'identifier, d'avoir comme des pièces de puzzle qui chacun donne un petit peu de notre identité et que soi-même, en fait, on intègre. Comme tu dis, ben, moi, je fais à manger. Comme tu disais tout à l'heure, moi je fais à manger, mais voilà, je fais aussi du vélo. J'ai une femme, j'ai deux gosses. Enfin voilà, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui nous identifient et qui nous permettent de savoir, ben voilà, moi dans le monde je suis ça. Moi dans le rapport à l'autre, avec les autres, tel que tu me vois, je suis ce truc-là, je suis cette constellation de petites choses. Et on se définit aussi bien par notre profession que parfois nos pensées sociales, religieuses ou ce qu'on veut, que par notre rapport à l'autre, enfin que notre positionnement. Ben voilà, je suis célibataire, je suis marié avec deux enfants, je suis en couple. Enfin voilà, on cherche malgré tout à s'identifier par plein de petites choses pour savoir où se situe notre place et comment l'autre en face peut aussi nous placer. Souhaite que l'autre puisse nous placer tel que nous on s'est placé.
Et du coup, là, on a complètement déjà je trouve qu'on touche complètement le point suivant, de toute manière, qui est cette notion de perte de lien social.
Oui.
Et de solitude qui sont en véritable augmentation. C'est-à-dire que à la fois tu vois une augmentation des, enfin, je suis sûr qu'elle a commencé il y a longtemps, mais on l'observe peut-être plus parce qu'à notre échelle, parce que peut-être qu'elle s'accélère, j'en sais rien, mais de gens qui perdent le sens dans le travail, mais aussi une augmentation assez chronique du lien social et enfin de la perte de lien social et de la sensation de solitude. Et ça, c'est. Enfin, ça va. Enfin, en tout cas, dans ma définition du sens, par exemple, c'est une seule et même chose, hein, quasiment. Il n'y a
Oui,
quasiment
mais
aucune distinction entre les deux.
je pense qu'on a dévié directement sur ce deuxième point, comme tu dis, ça signifie à quel point c'est lié. Mais moi, il y a un truc qui me fait vraiment, qui pour moi est un symptôme social, bah, c'est les réseaux sociaux. C'est comment est-ce que... Voilà, tu peux sortir tout un tas de produits. Il y a des gens qui ont sorti depuis que Facebook existe, Il y a des gens qui ont sorti des tas d'applications, des tas de produits, en réel ou en immatériel, et qui n'ont absolument pas fonctionné. Pourquoi est-ce que Facebook, pourquoi est-ce que Twitter, pourquoi est-ce que Instagram, pourquoi est-ce que LinkedIn, pourquoi est-ce que tous ces trucs fonctionnent? C'est parce que c'est venu répondre à un besoin et à une demande. C'est-à-dire que justement, vu qu'il y a perte de sens, perte de lien, sentiment de solitude exacerbé, eh bien, il y a un ersatz, il y a une espèce de pastiche qui vient comme ça et qui nous fait croire que on est en lien, qu'on a des amis, qu'on a de l'importance, qu'on peut vendre notre idéal. Et là, je le perçois, moi, j'ai un point de vue très critique par rapport à, très critique et ambivalent par rapport aux réseaux sociaux, parce que d'une, je suis dessus. En fait, je pense que sur le plan personnel, j'ai juste un compte Facebook. Sur le plan professionnel, par contre, j'ai Facebook, j'ai Instagram, j'ai Twitter, pour communiquer sur le plan, professionnel, parce que je ne peux pas faire autrement. Mais en même temps, je trouve ça toujours ridicule à quel point, chacun, ne se montre pas soi, il montre son idéal du moi. Je sais pas si tu as besoin que j'explicite le truc plus, si tu veux que je le rende plus vulgaire.
Si jamais c'est pas clair, je ferai revenir Olivier Durie,
Voilà.
notre spécialiste du numérique, qui est intervenu dans un autre épisode. Donc, je vous invite à l'écouter. D'ailleurs, on a parlé de ça, hein, entre autres. Mais et ce que tu
Disons
dis est tout
que...
à fait en ligne avec ce qu'il disait, parce que c'est cette notion que ces réseaux sociaux, en fait, c'est juste une nouvelle forme pour nous. C'est pour ça que ça nous attire, c'est qu'on a besoin de cette socialisation, de ces communautés, en fait, de se sentir appartenir à quelque chose. Et donc, ces plateformes, en fait, viennent répondre à ce besoin. Mais
Mais
c'est juste une autre
tu vois,
façon de
c'est...
faire. C'est-à-dire qu'avant, tu allais, je sais pas, je prends un stéréotype, mais tu allais dans, imaginons, en France ou aux États-Unis, peut-être, tu allais à l'église, tu allais à la mosquée, tu allais, tu vois, enfin. Mais où tu, enfin, tu vois, tu te regroupais en fait autour de lieux physiques, et parce qu'on a dématérialisé tellement de choses aujourd'hui, effectivement, bah, on se déplace moins, et donc on fait cette connexion en ligne. Et bon, le réseau social, enfin la plateforme de réseau social, prend tout son sens dans ce domaine-là, parce que du coup, elle crée un environnement où tu peux justement te re rejoindre les gens. Mais
Ouais.
est-ce du vrai lien?
Bah non, c'est pas du vrai lien, mais surtout, en fait, moi, ce qui m'énerve beaucoup là-dedans, c'est le caractère factice, en fait, de ce lien-là. Parce que, tu vois, justement, alors moi, je suis né dans les années 80, et j'ai beaucoup d'amour pour les années 80-90, j'adore ça. Et donc, tu vois, à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas tout ça. On était obligé de faire avec du vrai lien. Mais comment est-ce que tu présentais ton idéal du moi? Comment est-ce que tu présentais aux autres, quand tu les rencontrais, ta meilleure version de toi-même? Bah, c'était par le choix de ta coiffure, c'était par le choix de tes habits, c'était par le choix de la marque de tes baskets. Tu vois, si tu n'avais pas les bonnes baskets et tout, dans la course, c'était chaud. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. C'est un habit social. Ce que tu mets sur Facebook, c'est tu mets une version de toi qui est celle que tu te dis là, ça va faire qu'on va m'aimer, ça va faire que je vais créer du lien, ça va faire que on va m'aimer, on va me donner un pouce, on va me donner un like, on va me mettre un commentaire, on va me mettre un petit bonhomme qui rigole ou j'en sais rien. Mais tu vois, c'est je vais dire, enfin, typiquement Instagram au début où c'est sorti, un truc qui me faisait marrer, c'était que tu avais quasiment. Trois photos sur quatre, c'était un plat à bouffer. Tu vois, c'était un truc comme ça. Et jamais tu voyais des coquillettes au beurre. Sauf que dans la semaine, quand t'as pas le temps parce que tu as beaucoup de boulot ou quoi que ce soit, bah, tu vas aller manger tes coquillettes au beurre. Ça fait
Fais
partie de
attention où tu vas, hein. J'ai pris des photos de mes assiettes aujourd'hui.
ta vie. Et du coup,
Hein. À titre professionnel, bien sûr.
tu ne montres que quand tu vas manger un truc super beau qui fait envie à l'autre. Tu vois, qui fait envie à l'autre de rentrer dans ta vie, de rentrer en lien avec toi. Mais c'est factice. Et...
Ouais, du coup, c'est pour ça que c'est, ce lien finalement est plus fin, est peut-être plus faible qu'est-ce qu'il a pu être, parce que tu montres vraiment qu'une toute petite partie du truc. Je pense à pendant que tu le décrivais, ça me fait penser à une situation par exemple que j'ai vécue récemment, qui est assez inintéressante, mais je vais la raconter quand même parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux. Et c'est que on m'avait lancé un espèce de petit challenge. Montre une vidéo d'un truc à faire et on me dit est-ce que tu peux le faire? Je dis bah ok, ouais, de toute façon j'étais confiné, j'avais que ça à faire. Donc je suis allé essayer et du coup je me suis filmé en train de le faire pour montrer que je l'avais bien fait. Et bah, j'ai galéré un peu les premières fois, donc du coup j'ai pas envoyé cette vidéo là parce que j'ai pas réussi tout de suite et j'ai fini par trouver le truc et je l'ai fait. Donc bon, ici il y a que deux situations où j'ai, enfin il y a que deux fois où je l'ai loupé avant de réussir. D'accord. Mais imaginons que ce soit quelque chose de plus complexe. Donc, on va me dire, je sais pas, par exemple, j'ai essayé de faire la roue récemment, je ne sais plus faire la roue. D'accord. Donc, si on me disait, chiche, tu fais la roue, bah, il faudra peut-être que j'en fasse 15, 20, 30. Donc, en gros, si tu es spectateur de ma vie, si on vit dans une petite communauté où tout le monde est assez proche, hein, tu vas me voir devant ma maison pendant, allez, 2-3 semaines, rater la roue à peu près 15 fois par jour. Et ensuite, un jour, je vais y arriver.
D'accord? Et c'est cette fois-là que tu vas nous montrer.
Et voilà. Et en fait, dans notre monde, dans notre société moderne, en fait, je vais me planquer pour aller planter toutes mes roues. D'accord? Et quand je vais y arriver, ça sera filmé. Et là, je vais t'envoyer la vidéo. Hey, regarde. Regarde, ça, c'est qui le beau gosse? Qui c'est qui fait la roue?
Mais ça, tu vois, tu dis, ouais, ça n'a pas vraiment d'importance et tout, mais je vais le dire quand même. C'est un truc qu'il ne se passe pas une journée dans mes consultations où je ne dois pas répéter à au moins une personne, mais vous savez, vous avez le droit à l'erreur. C'est-à-dire que le problème, justement, quand on n'est plus dans ce lien réel, quand on est seul et que la seule fenêtre que tu as sur le monde, ben, c'est ce best-of sur les réseaux sociaux ou sur le net ou même la télévision. Hein. Il faut savoir un truc, c'est que, pareil, petite parenthèse sur ma vie privée ou quoi, quand j'étais vraiment au tout début de mes études, que je venais de passer le bac et que je passais à mes études, j'ai eu un moment de dépression, de forte dépression, assez difficile et tout, machin, comme toutes les dépressions. Je crois pas que les dépressions soient simples. Et un truc tout con, hein, mais en fait, c'est depuis cette période-là que de ma vie, je n'ai plus du tout eu de télévision. J'ai la chance d'avoir trouvé une femme qui, elle aussi, n'aime pas la télé. En fait, j'avais remarqué à ce moment-là que parmi les choses qui me rendaient, qui me déprimaient, c'était un petit peu ce côté best-of de la vie à la télévision. Tu vois, t'as que des gens beaux, t'as que des gens qui réussissent, t'as que des gens brillants, t'as que des gens intéressants. Enfin, c'était à peu près à l'époque où on commençait à avoir Love Story et tout, donc ça commençait à se dégrader. Mais bon, on avait quand même, tu vois, c'était avant les réseaux sociaux, c'était avant tout ça. Mais déjà, il y avait un lien factice. Il y avait une présentation du surmoi et du moi idéal constant. Et en fait, si tu commences à trop croire en ce truc-là, toi, ton image de toi, elle en prend un gros coup, quoi. Et ça peut te déprimer parce qu'en fait, tu es au courant de tout ce que tu as raté. Toi, tu es au courant de toutes tes failles, de tous tes défauts, de tous les trucs dont tu as honte, de toutes tes culpabilités. Ça, tu en es tout le temps conscient. Et en fait, si tu finis par croire que ce que les autres te montrent, bah, c'est leur vraie vie, mais c'est hyper dépréciogène.
Oui, et puis la télévision fait ça en plus.
Ouais. Et donc du coup, j'étais extrêmement fier de moi de voir que à partir du moment où j'ai arrêté, où j'ai balancé ma téloche, j'ai arrêté d'avoir la télévision dans ma vie, et ben en fait, tu te balades dans la vie, tu retrouves de nouveau les femmes belles, quoi. Tu vois, t'as pas besoin qu'elles soient maquillées ou photoshopées ou ci ou ça, tu te balades dans la rue, ben, voilà, dans la vraie vie, il y a des belles filles. Dans la vraie vie, il y a des gens intéressants. Ils sont pas obligés d'avoir écrit 15 bouquins, d'avoir réalisé des chefs-d'œuvre au cinéma ou quoi que ce soit pour être intéressant. Non. Ton voisin, en fait, quand il te raconte sa journée et qu'il te dit sur quoi il a galéré et comment est-ce qu'il est content d'avoir trouvé une solution à son petit problème, bah, en fait, ouais, c'est cool. T'es un gars intéressant et ça me parle parce que moi j'ai vécu les mêmes petites difficultés aujourd'hui, tu vois.
C'est vrai que lorsque tu t'intéresses, enfin, non, c'est pas la bonne formulation. C'est-à-dire, lorsque tu vas chercher en fait ton divertissement, allez, je vais utiliser le mot divertissement, mais lorsque tu vas chercher en fait en gros, d'autres choses que ta vie, d'accord? Tout simplement. D'autres événements que ceux de ta propre vie, d'accord? Autour de toi, donc en interagissant avec des gens, et bah, tu vas finalement découvrir des choses parfois beaucoup plus profondes ou des expériences beaucoup plus marquantes que si on prenait ces mêmes histoires et que je te racontais, par exemple, si je te raconte le bonhomme que j'ai croisé un matin dans un café qui est en train de me raconter qu'il avait couru près de je crois près de 80 fois autour de Paris. Il avait fait le tour de Paris par la petite ceinture plus de 80 fois dans sa vie parce que c'est un truc qu'il faisait avec ses collègues. Tu vois, enfin, je vais pas faire honneur à son histoire parce que c'est pas son vécu. Je vais pas, j'en fais une transposition. Et même si je la prépare bien et que je la scénarise bien et que je te monte bien le fait, je suis rentré dans le café, il y avait ce mec qui, tu vois, il payait pas de mine, t'avais l'impression qu'il venait de faire une promenade. Tu vois, enfin, si je te le présente bien, si je te le montre bien, etc., ça va peut-être te faire une belle histoire, mais en fait, j'aurais un peu sapé quelque part ce moment. Et c'est-à-dire que ce qui a été
Le lien
intéressant en fait dans
authentique.
cette histoire, c'est ce lien entre cette personne où à un moment nos regards se sont croisés et il y a quelqu'un qui a fait un commentaire et une conversation a germé de là. Et le mec m'a raconté un truc qui m'a touché. Et puis voilà, en fait. Et c'est tout. Y a pas besoin d'en écrire un bouquin, il n'y a pas besoin d'en faire un épisode. Par contre, je pourrais prendre cette même expérience et te la scénariser et en faire un truc complètement épique et te dire que, tu vois, j'ai vécu un moment tellement beau, tellement fort, et c'est l'humanité est magnifique, ce mec est tellement inspirant. Je fais non, c'est juste, il y a eu un moment sympa avec un gars qui m'a raconté une histoire qui était cool, qui m'a juste fait penser quelque chose de sympa, tu vois. Mais ça m'a fait du bien, tu vois. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et peut-être que j'en ferai un bouquin un jour, qui sait.
Ouais, mais il faut savoir, je pense, réapprendre à se laisser surprendre. Parce que, alors, moi, ça, c'est parmi les choses que j'aime travailler avec mes patients, c'est comment est-ce que, à un moment donné, bah, justement, vu que le thème de ton émission d'aujourd'hui, c'est l'anxiété et la dépression, c'est se laisser surprendre. Déjà, quand on est anxieux, faut se laisser surprendre déjà par sa capacité à savoir trouver des solutions et à se débrouiller, à s'adapter. Et quand on est, quand on est déprimé, quand on est en dépression, c'est se laisser surprendre par quelque chose que, ah, en fait, je me rappelais pas que ça m'apportait du plaisir. Se laisser surprendre par le fait que telle chose est belle et qu'on peut en tirer quelque chose d'intéressant de cette beauté-là. Sauf que je reste quand même, tu vois, très borné dans ma pensée. Tout à l'heure, je te parlais de l'idéal du moi, mais il y a aussi l'idéal social, quoi. Pour que tu sois heureux, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois quelqu'un de bien. Par contre, il faut que tu aies telle télévision, telle voiture, tel téléphone, telle maison. Il faut que tu aies ton chien, il faut que tu aies ça avant tel âge. Voilà, si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie, tu vois.
La fameuse white picket fence américaine, la petite barrière blanche devant la maison avec la pelouse bien,
Ouais.
voilà.
Et donc, du coup, je pense que c'est terriblement difficile pour les gens qui le croient, ça. Tant que tu es en capacité d'avoir un petit peu de distance avec cette demande sociale, avec ce matériel bling-bling, ce truc qui devrait dire quelque chose de toi à ta place, je pense que c'est un vrai problème, en fait.
Bah, de toute façon, là, c'est pas moi qui vais avoir la moindre objection là-dessus. J'ai démarré ma carrière professionnelle, je gagnais pas grand-chose. Je me suis retrouvé des années plus tard à gagner des magnitudes plus. Et bah, figure-toi que j'étais pas plus heureux. Enfin, en tout cas, pas de manière significative, clairement. J'étais plus à l'aise, c'est sûr, il y a plus de confort de vie, machin truc. Mais en fait, à la fin du mois, c'est pas comme si... plus je gagnais, plus je dépensais. Donc en fait, j'avais pas déjà beaucoup plus de sous. Je faisais peut-être plus de choses, ou j'avais de plus belles choses, enfin, tu vois, plus gros appart, machin truc, etc. Mais concrètement, il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, par contre, avec cette montée professionnelle, je me suis retrouvé à avoir des problèmes aussi, en plus. C'est-à-dire que tout a grossi. C'est-à-dire que le bon côté des choses, c'était être bien payé, bien gagner ta vie, avoir un travail valorisant, etc. Bah ça a augmenté, ok.
Ouais.
Mais les petites emmerdes du quotidien, elles ont augmenté aussi avec. Parce que ça a pris plus de place, parce que tu avais moins le temps de t'en occuper, ou juste parce que les enjeux étaient plus gros. Donc, cette espèce de course vers l'avant, au bout d'un moment, tu dis... Je le souhaite en tout cas aux gens qui sont un peu pris là-dedans. Peut-être qu'à un moment, ils vont se poser cette question. Mais en tout cas, tu n'avances pas avec le matérialisme, en fait. C'est pas...
Excuse-moi de te couper.
Vas-y, vas-y.
Mais c'est un bon exemple et je pense que ça fait partie des choses, tu vois, que l'être humain devrait avoir conscience. Tu vois, quand tu vas à l'école, on t'apprend l'histoire de France, on t'apprend l'histoire de ci, la géographie, les maths, le français. On t'apprend pas comment est-ce que toi tu fonctionnes en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et un truc que les gens devraient comprendre, saisir, accepter, assimiler, intégrer, c'est que nous sommes faits de vide. On a besoin de vide, parce que sinon, c'est la catastrophe. Si tu obtiens... En fait, c'est le problème de la toxicomanie. Tu vois, l'héroïnomane, lui, le problème, c'est qu'il a trouvé l'objet qui le satisfait pleinement. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est satisfaite pleinement par un objet qu'il a trouvé? Eh bien, toutes ses pensées, toutes ses ressources, tout ce qu'il va investir, tout ce qu'il va mettre en place dans sa vie, ça va être dirigé vers l'obtention de cet objet. Le fait de se le procurer et de s'en remplir.
Ouais.
Ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, bah, tu ne vis plus, tu n'as plus bien, ce que tu veux, c'est ce produit.
Oui, et puis tu pourrais remplacer héroïne par autre chose. Hein. Tout système d'addiction, en fait, repose à peu près sur le même principe. Hein.
Ouais. Et du coup, si tu n'acceptes pas qu'en tant qu'être humain, tu dois toujours avoir une part d'insatisfaction et que tu ne seras jamais véritablement comblé, bah, tu vas toujours, comme tu dis, c'est la rat race, c'est la course des rats dans leur... dans leur petite roue, là, qui tourne, et puis en fait, ils ont l'impression qu'ils courent, mais ils font du surplace. Tu vas toujours vouloir... j'adore cet exemple-là, même si je me fiche éperdument des voitures, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les voitures, mais quand tu veux acheter une voiture, tu te dis, je veux qu'elle ait la clim, je veux qu'elle ait si... pour certaines personnes, ça va être, je veux qu'elle ait tant de chevaux... je veux qu'elle soit avec tel carburant, je veux qu'elle ait 5 portes, ou je veux qu'elle ait un toit ouvrant, ou j'en sais rien, peu importe. Tu vois, tu t'idéalises le truc, tu te dis ça va me combler. En fait, c'est ça qui me manque. Je vais être heureux une fois que j'aurai ce truc-là. Puis tu as ta voiture, dans le meilleur des cas, hein, quand tu as la possibilité de t'offrir ce que tu souhaites.
Ouais. Puis tu as ton voisin qui s'achète une Porsche et tu as les boules.
Même sans ça, tu vois, là, tu n'as même pas besoin du regard de l'autre. C'est ça qui est bien. Que tu vas kiffer un moment, on va dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis après tu dis
putain, ce sera la norme.
Ouais voilà, tu sais, c'est bizarre, je ressens toujours du vide en moi, je suis toujours aussi insatisfait. En fait, ce bouton, j'aurais préféré qu'il soit pas là, mais qu'il soit là. Et puis bon, oui, d'accord, elle a de la puissance, mais par contre, enfin, la clim, je trouve qu'elle fait quand même du bruit, nanani, nanana. Et donc, du coup, tu vois, tu sais, tu vas réinterpréter ton insatisfaction et ton manque.
Ouais.
Et tu vas de nouveau repartir sur, bah, soit finalement, je me suis trompé, c'était pas ce modèle-là que j'aurais dû prendre de voiture. Soit, bah, ma voiture, elle me va, mais je continue à avoir cette insatisfaction et ce sentiment de vide en moi. Donc, en fait, je pense que finalement, il faut que je m'achète un chien. Tu vois? C'est toujours il me faut quelque chose de plus, il me faut quelque chose de plus. Et moi, je suis passionné. Avant de vouloir être psychologue, quand j'étais enfant, je voulais être Jean-Pierre Stevens. Je sais pas si tu vois qui c'est, Jean-Pierre Stevens.
Pas du tout.
C'est le mari dans Ma sorcière bien-aimée.
Ah oui, d'accord.
En fait, c'est un publicitaire.
Ouais.
Et j'ai toujours été passionné par la publicité et par le fait de, simplement par des messages, par des images, de créer de l'envie et du besoin chez quelqu'un. Et en fait, bon, bah, finalement, j'ai choisi de rester du côté de la force et de pas aller du côté obscur. Donc, je suis devenu psy. Mais,
Je t'ai dit que j'allais bosser dans la pub, juste pour si
non, tu m'avais jamais dit,
Bon, bah voilà, maintenant tu sais.
mais moi, ça me passionne toujours. Je trouve ça toujours aussi intéressant. Et en fait, ça marche exactement sur ce fait-là. Tu regardes une publicité, tu vois pas juste un beau gosse qui met un parfum. Tu vois un gars qui a l'air heureux. Tu vois un gars qui a l'air
Qui a l'air
d'avoir la
heureux.
femme qui lui plaît. Et en fait, c'est pas tu assimiles ça au parfum, mais en fait, ce que tu veux, c'est être heureux comme lui.
Oui,
T'as
c'est
pas
ça.
envie de sentir comme lui, tu t'en fous de sentir comme lui. Ce que tu veux, c'est être heureux comme lui. Quand deux enfants jouent ensemble et qu'il y a un seul jouet, en général, celui qui a le jouet, au bout de 30 secondes, une minute, c'est des enfants de moins de 5 ans, ils s'en foutent, ils veulent passer à autre chose. Ils veulent un autre objet. Mais par contre, celui qui l'a pas et qui voit l'autre jouer avec, il est persuadé qu'il est heureux avec ce truc-là. Donc, il veut le même. Tu vois? Et ça, c'est fondamental, je pense, de l'intégrer dans sa vie, que l'objet nous insatisfera quoi qu'il arrive. Et donc, que tu n'es pas obligé de courir après.
D'ailleurs, il y a un truc auquel je m'étais intéressé, qui est du coup cette pratique du minimalisme. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, on a déjà parlé de minimalisme en parlant de course à pied, c'est autre chose là. On parle d'un autre truc. Cette notion de minimalisme dans le mode de vie, c'est-à-dire que de vivre avec moins de choses, et cette idée que bah, on achète beaucoup de choses qui en fait ne nous apportent rien. Et donc, c'est assez séduisant hein, comme approche. Hein. Donc, de finalement vivre avec moins de choses et de pour en fait interrompre en fait ce cycle perpétuel hein, d'une course en avant.
Surconsommation, du
C'est
fait d'avoir.
littéralement le truc de chasser la carotte quoi. Enfin, tu la rattraperas jamais parce que elle est attachée à ta tête en fait. Donc, elle sera toujours aussi loin quoi que tu fasses. Et donc, ça pas enfin. Plus tu avances, plus ton objectif avance. Donc, il n'y a pas de fin, en fait. Et enfin, même en dehors du matérialisme, enfin, on peut le voir dans plein de pratiques. Le cas classique, enfin, par exemple, chez les coureurs, c'est les gens qui font de la course à pied. Ils commencent, ils font... donc, ils courent pas. Ils démarrent, on leur dit, ah, faut que tu t'inscrives à un 5K. Ils s'inscrivent à un 5K. Une fois qu'ils ont fait un 5K, on leur dit, tu devrais faire un 10K. Ils font un 10K. Ensuite, tu devrais faire un semi. Ils font un semi. Ensuite, ils font un marathon. Ils font deux marathons, trois marathons. Puis on leur dit, vraiment, tu vas t'arrêter au marathon, tu pourrais faire plus. Et là, ils s'inscrivent à un ultra-marathon. Et quelques années plus tard, les voilà en train de faire le tour du Mont Blanc sur 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Et si à un moment, ils s'arrêtent, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je fous là? À la base, le mec, il voulait faire un footing. Et et c'est vraiment ça, c'est une espèce de course en avant, et tu sais, c'est toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et c'est super dur, quelque part, dans le monde dans lequel on vit, de se dire stop, 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 je suis bien là. C'est exactement la quantité de trucs qu'il me faut. Genre, ça, c'est ma bonne quantité de trucs. Non, parce que ça marche pas comme ça, et on n'est pas foutu comme ça, tu vois.
Il y a juste une petite différence entre le matérialisme et puis ce que tu viens de dire, toi, qui est de l'ordre de l'expérience.
Oui, bon, d'accord.
Et tu vois,
Mais c'est un peu le même schéma, je trouve, parce qu'on consomme les courses en fait, c'est un produit quelque part.
Ouais, et
C'est
puis comme tu
pas
dis,
de devenir
tu augmentes
meilleur.
ton salaire, tu augmenteras aussi tes dépenses. C'est
Hein.
comme ça, l'être humain, il est comme ça. Mais quand même, tu vois, il faut qu'il y ait un feedback positif pour que de faire ton footing, tu finisses par faire le tour du Mont-Blanc. Faut que quelque part ça te parle. C'est pas parce que tu te mets à faire un truc,
Oui, bien
c'est que
sûr.
quelque part ça rencontre quelque chose en toi qui nourrit ben, soit ton estime de toi, soit qui nourrit ton besoin enfin, d'hyperactivité par exemple, qui va nourrir quelque chose de. Si vraiment ça devient une passion et quelque chose qui peut être extrêmement chronophage et qui oriente totalement ta pensée, c'est que en général, C'est ce qu'on appelle le symptôme, ce que Lacan a appelé le symptôme. Si je dis pas de bêtises, hein, il faudrait encore une fois demander son avis à Olivier.
On se fera venir pour le fact-checking
mon
la prochaine fois.
symptôme à moi. C'est mon symptôme positif, si tu veux.
Ouais.
Je tombe dans une espèce de pseudo-addiction, mais qui est positive pour moi. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Parfois, ça peut nous amener à émerger en tant qu'individu, à émerger en tant que sujet, parce qu'on trouve quelque chose qui répond à un besoin essentiel et profond de nous.
Ouais, mais
Parfois.
sur le truc, par exemple, bon, l'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple que j'ai pris, mais tu vois, par exemple, sur cette notion de course, nous sommes des consommateurs, c'est-à-dire que les coureurs, et je suis quand même assez impressionné d'avoir tenu 30 minutes avant de parler de course à pied, parce que d'habitude, je le fais beaucoup plus tôt dans l'épisode. Mais je suis fier de moi, je progresse. Sur le truc des courses, en fait, la course est un objet de consommation, d'accord? C'est-à-dire que tu aimes courir, t'as pas besoin d'aller faire une course. Ça ne t'apporte fondamentalement pas grand-chose, à moins que tu sois en train d'aller à la course pour monter sur le podium. À ce moment-là, c'est une tentative professionnelle, enfin voilà. Mais la plupart d'entre nous pratiquons ces activités sportives purement de manière récréative, donc on est là pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour se rendre heureux. Le fait de participer à une course, en fait, c'est un acte de consommation. Donc en fait, on est en train de consommer un truc, et donc ce qu'on consomme définit un peu qui nous sommes socialement. D'accord? Donc, tu vois, c'est un peu de nos jours, c'est assez commun pour, je sais pas, telle catégorie socio-professionnelle. Les gens, ils vont courir un 10K, tu vois, ils vont courir une petite course, tu vois, ils vont faire un truc. C'est pour dire, je réussis professionnellement et je réussis sportivement aussi, tu vois, j'atteins des objectifs, tu vois, dans les deux. Enfin, et du coup, tu consommes ça, en fait, tu l'achètes. Et donc, la course en avant, en fait, là-dessus, c'est que on te dit, bah attends, si tu peux faire ça, tu peux faire plus. Tu vois, et on est un peu dans la même démarche. Donc, et on est encouragé, on s'encourage en fait à faire ça. Ou parfois, on
Ben
s'encourage tout seul dans son coin, mais c'est lié à un
c'est que
circuit social,
le... c'est ça, c'est du social. Là, pour le coup, on est quand même dans le social. C'est tu cours avec d'autres, tu vas te comparer, tu vas te confronter à l'autre quand tu fais ça.
C'est ça.
Ça peut répondre à des questions d'estime de soi, encore
Voilà,
une
c'est.
fois, ou de place. Voilà, je cherche ma place. Je suis celui qui court le plus vite. Ou je suis celui qui court dans la moyenne.
Et c'est tout à fait comme ça que, enfin, quand tu. Encore une fois, c'est ce truc, tous ces mécanismes, tu les fais un peu inconsciemment, en fait. Enfin, tous ces cheminements, donc tu les fais un petit peu inconsciemment jusqu'au jour où il y a une espèce de temps mort et tu as le temps de regarder ce que tu as fait. Tu vois? Et là, tu peux te rendre compte que bah, potentiellement, alors je parle pas forcément de la course à pied, hein, je parle vraiment de tout, mais tu vas regarder les choses différemment et tu vas dire, ah, en fait, j'étais vraiment dans ma roue, j'étais en train de tourner, en fait, persuadé que plus j'allais aller vite, bah, plus j'allais aller loin. Sauf qu'en fait, bah, encore une fois, l'objectif n'a pas bougé, puisque le mur est toujours là. Il est toujours juste devant moi. Je peux aller aussi vite que je veux. Le mur sera toujours juste devant moi, parce que je suis dans une roue. Et que donc ça change pas du tout.
Et tu vois, je trouve ça génial, c'est la démocratisation des salles de sport. Enfin, c'est juste ce que tu dis, ça me fait penser à ça. C'est que littéralement, on fout des gens dans des salles pour courir et faire du sur place,
Sur place,
pour
ouais.
faire du vélo et faire du sur place. Et puis enfin, voilà quoi. Bref, c'est assez magique.
Mais c'est bizarre de se dire que, enfin, oui, enfin, ce serait compliqué de se dire, c'est quoi ton sport? Et tu dis, moi, je suis coureur. Et je fais, ah ouais, tu fais quoi et tout? Puis du coup, je découvrirais, par exemple, que ça fait genre 5 ans que tu cours et en fait, que tu n'as jamais quitté un tapis. Ça me ferait bizarre, je pense. Non, en fait, je dis ça en
Oui, mais
rigolant, mais je me dis que ça doit exister.
j'ai
C'est vrai.
une télé 4K devant, et donc du coup, tu vois, je regarde, je sais pas, Nature ou National Geographic, et donc j'ai parcouru des trucs, tu peux pas comprendre.
Alors, d'ailleurs, je peux le dire avec une assez grande certitude. Hein. En courant, je n'ai encore jamais vu de dragon, alors que je suis sûr que cette personne-là, oui. Et pourtant, j'en ai halluciné des trucs. Parce que quand tu es assez fatigué, ça arrive vite. Bon, on est trop parti à la tangente de la course à pied, mais ça, c'est ma faute. Et je le fais tout le temps. Pour en tout cas revenir sur ce truc de matérialisme, je pense que on se retrouve en fait, je pense, dans notre société moderne en fait assez capturé en fait par ce truc-là, et ça nous tire en fait loin de nos valeurs en fait, nos valeurs un peu plus fondamentales ou nos besoins un peu plus fondamentaux. Et c'est entre autres cette quête de sens, c'est-à-dire que finalement le matérialisme vient remplacer la quête de sens. Et donc plutôt que de te dire est-ce que je fais quelque chose qui a du sens pour moi, tu cherches en fait la réussite sociale. Donc toujours dans le rapport à l'autre, tout est lié de toute façon, il n'y en a pas un seul que tu puisses prendre complètement isolé, pour moi tu te retrouves à remplacer en fait par du matérialisme, à remplacer la quête de sens par du matérialisme, et donc c'est une course en avant, peu importe comment, c'est que tu finis par plus trop te poser la question de comment tu vas y arriver, parce que de toute façon il n'y a pas de sens, puisque tu as substitué le matérialisme. Enfin, tu as substitué le sens au matérialisme.
Moi, j'ai une façon un petit peu... une façon un petit peu, je ne sais pas quoi, de représenter ça. Quand tu reçois des gens qui sont en difficulté, quand tu travailles avec eux, quand tu essayes de faire en sorte qu'ils aillent mieux, il y a un truc qui est frappant chez les êtres humains, c'est comment est-ce que... Quand un être humain va mal, il se replie sur lui, mais vraiment. C'est-à-dire que ses pensées se centrent sur lui, que ses pensées, que tout, c'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui se repliait, tu vois, comme le nombrilisme porte très très bien son nom. C'est comme si ça se repliait sur le nombril, il baisse la tête, il est sur lui.
Ouais, presque physiquement en plus.
Ouais. Et quand quelqu'un va bien, c'est tu vois que finalement il commence à se réouvrir vers l'extérieur. C'est plus il cherche à ce que on lui donne du plaisir, du bonheur, à ce que il ressente de l'amour ou quoi que ce soit. À partir du moment où quelqu'un commence à bien aller, à avoir réglé des soucis ou des problèmes, et ben il y a quelque chose qui se tourne vers l'extérieur, il se redresse. Voilà, physiquement on voit qu'il y a un redressement, que les personnes arrivent à nouveau à bomber le torse. Et en fait, j'aime bien ce terme de rayonner, c'est-à-dire qu'ils peuvent à nouveau offrir quelque chose aux autres et au monde. Ouais. Et quelque part, le matérialisme, le fait de vouloir avoir des objets, c'est quelque chose, mais d'extrêmement infantile. C'est un mécanisme de défense.
C'est le schéma que tu as décrit tout à l'heure, en plus. Enfin, oui. Les autres l'ont. Et du coup, je me dis que si je l'ai, je serai comme eux, parce que quand je les vois, ils sont heureux.
Donc tu vois, ça te dispenserait de faire un travail sur toi, de réfléchir, de penser, de mettre du sens sur ta vie, d'ordonner ta vie, en fait, de l'ordonner au sens vraiment comme les points cardinaux, quoi. Tu vois, ça t'aiguille. Et en fait, si je me remplis, si je possède, je vais me sentir bien. Et en fait, c'est ça qui est un peu problématique aussi, c'est que les objets aujourd'hui, on nous vend l'aspect expérience de ce truc-là. Tu vois, comment est-ce que tu vas te nourrir d'un iPhone parce que tu vas vivre des expériences de fou avec ce que tu as dans la main. Mais c'est comment est-ce que de quelque chose où, en fait, quand tu t'épanouis, tu te tournes vers l'autre, vers l'extérieur et tu rayonnes, ben on est sur un truc du pauvre, entre guillemets, où ben, on prend sans cesse. Et on redit la même chose depuis tout à l'heure, mais c'est une perte de sens, c'est une perte d'humanité, et c'est une perte de... Enfin, vraiment, la vie, elle sert à quoi dans ces moments-là, quoi. Et quand tu as des gens qui en viennent à se poser ce type de questions en séance, tu sais que là, il va falloir les ramasser un petit peu à la petite cuillère, ou en tout cas, il va falloir les porter comme il faut, parce que quand les gens en arrivent à leur questionnement personnel, à se dire, mais alors déjà, moi, il y avait le sens de ma vie, que j'en étais pas bien sûr et que je suis pas bien sûr de ça. Alors en plus, quel est le sens de la vie de façon globale? À quoi ça sert tout ça? Alors là, c'est comme si tu avais le sol qui s'effondrait sous tes pieds, quoi. Tu viens de reprendre un petit coup derrière le casque.
Ouais, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé pour ensuite en venir plus tard, bien après, à changer de métier. Enfin, c'est juste de me dire, mais putain, mais ça sert à rien ce que je fais, mais à rien. Ça me sert pas à moi, ça sert pas vraiment à une entreprise plus que ça. Ça sert clairement à rien du tout dans le monde. Enfin, si j'arrêtais de le faire, il se passerait rien du tout. Tu vois, enfin, et c'est vraiment ce genre de truc où vraiment tu te dis, mais attends, mais du coup, moi, je sers à quoi? Si tout ce que je fais, ou tu sais, le fait de l'idée de, tu vois, de passer des heures et des heures de ta journée à te dire, mais tout ça, ça sert à rien, c'est la principale chose que je fais de mes journées. Du coup, si ça, ça sert à rien, moi, je sers à quoi?
Ah, voilà.
Tu vois, en quoi est-ce que les autres heures de ma journée où je mange et je suis assis dans le métro, en quoi est-ce que j'apporte vraiment quelque chose? Tu vois, est-ce que c'est les 10 minutes d'interaction que j'ai réussi à caser ce matin avec la personne avec qui je partage ma vie? Est-ce que je suis si bon que ça qu'en 10 minutes, c'est ça la totalité de ma valeur? Enfin, tu vois, ça tient. Enfin, bref. Oui, c'est, en tout cas, c'est dans ce sens-là que ça va, quoi. C'est vrai qu'on tourne un peu en rond sur ce sujet, mais en fait, c'est juste que t'as tellement de. Enfin, il y a tellement de points, en fait, qui sont assez interconnectés. Mais il y a un truc auquel, enfin, dont tu as parlé tout à l'heure, sur lequel j'ai envie de revenir, que je trouvais intéressant, qui est, tu disais que lorsque tu recevais des gens en cabinet, tu te retrouvais confronté au fait qu'ils avaient, une perception du coup du monde, enfin, ils se comparaient tellement aux autres qu'ils avaient peur en fait d'avoir de se tromper ou de s'exprimer ou de, tu vois, enfin, il y avait une véritable peur du regard de l'autre aussi. Et c'est quelque chose que je vois aussi avec mes clients, c'est-à-dire dans une autre mesure, parce que je reçois quand même pas mal de gens qui ont des problèmes de surpoids, donc il y a généralement un gros truc d'image de soi, d'accord, parce que t'as l'impression tu vois partout autour de toi ces gens sveltes, en forme, et ils sont là en train de manger essentiellement la même chose que toi, ou du moins tu le crois, parce qu'ils te montrent 3 assiettes sur 700, tu vois. Ouais. Et ils te montrent les meilleurs, donc ils disent hey, regarde, j'ai mangé ça, et tu dis moi aussi je mange ça, mais pourtant moi je fais 8 fois ta taille, et du coup tu te dis c'est moi, alors c'est moi qui suis nul, tu vois. Et donc les gens arrivent avec une image d'eux qui est tellement détruite, hein, qu'il faut quasiment systématiquement commencer par leur dire non mais stop, c'est
vous
pas de votre
différent.
Faute, c'est pas de votre faute, vous êtes différent, c'est pas vous qui êtes une merde, c'est pas, tu vois, enfin, et t'es quasiment obligé de reprendre du début, en fait. C'est pas qu'en fait les autres sont pas en train de réussir leur vie là où vous êtes en train de la rater. C'est, il vous est arrivé des trucs qu'il ne leur est pas arrivé, tout simplement. Point barre.
C'est ça.
Tu vois, et juste pouvoir dire, et vous savez pas forcément, ça se trouve, ces personnes-là, et d'ailleurs, le plus drôle, c'est qu'une fois j'ai eu une personne qui se comparait à une autre que je connaissais. Bref, ça c'est plus compliqué, mais. Et qui l'avait utilisé comme point de comparaison en disant j'aimerais bien être comme machin, tu vois, qui réussit tout, et il dit mais moi je connais machin. Machin, tout n'est pas réussite en fait chez machin. Tu vois,
ouais.
Et donc tu te retrouves dans une situation où tu dis voilà, tu te compares à cette personne, mais en fait cette personne n'est pas parfaite du tout. C'est juste que professionnellement, publiquement plutôt, c'était le meilleur choix, publiquement cette personne présente un certain aspect parce que c'est ce qu'elle fait publiquement. Mais elle ne dévoile pas toute sa sphère privée, tu vois. Mmh. Et c'est vrai qu'aussi, si tu commences à manufacturer ta vie privée pour la présenter publiquement, là, tu peux rentrer dans toute une autre catégorie de troubles parce que tu commences à regarder toute ta vie, qu'elle soit privée ou publique, parce qu'on a tous une vie privée et une vie publique dans une certaine mesure. Si tu commences à regarder la totalité de ta vie comme quelque chose que tu présentes aux autres, comme une interaction sociale, en fait, tu perds en fait ce truc d'intimité que tu peux avoir avec les autres. Et donc, du coup, tu commences à te déconnecter en fait de tout le monde. Parce que tu ne peux pas avoir d'intimité, c'est ce moment où tu es un peu vulnérable, où tu es un peu toi-même, où, par exemple, lorsque je suis sur le podcast, j'essaye de m'exprimer correctement, j'essaye de bien articuler, j'essaye de ne pas faire pendant 3 heures, parce que. Et d'ailleurs, il faudra pas que je le coupe au montage, tu vois, il faudra que je fasse attention que je le laisse bien, parce que parfois j'en enlève, parce que j'en fais trop, tu vois, pour que ça sonne mieux. Et le fait est que si je rencontre quelqu'un dans ma vie de tous les jours, et lorsqu'on va avoir une conversation, il va y avoir beaucoup de blanc, pas beaucoup de pauses. Ça va pas être, on va pas occuper en permanence cet espace audio. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire cette distinction entre une sphère privée et une sphère publique, tu vois. Et je pense que lorsque tu commences, et avec du coup cet univers des médias sociaux qui ont pris de plus en plus de place dans nos vies pour remplacer notre lien social, on se retrouve, je pense, encore une fois, je pense, mais je pense qu'on a commencé à mettre en fait ces médias sociaux comme une barrière dans notre lien, dans notre sphère privée de plus en plus, et donc on commence à réfléchir à notre vie privée comme une interaction publique.
Ouais, ça c'est possible, mais de la même façon, je suis désolé parce que je radote aussi, mais il y a un gros problème, c'est quand tu prends l'idéal du moi à partir de la norme. Tu vois, si tu veux rentrer dans la norme, et ça c'est un truc, c'est une catastrophe, parce que enfin, typiquement, quand Freud il a commencé à faire ses écrits, à faire ses théorisations ou quoi que ce soit, fin du 19e siècle, les gens étaient malades et étaient névrosés parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer leur fantasme, leur désir sexuel. Ils pouvaient pas. Aujourd'hui, on est dans un truc, si tu dois être normé, en fait, tu crées des névroses et tu crées des complications aussi. Que ce soit des dépressions, des anxiétés, tout ce que tu veux, des crises d'angoisse,
parce qu'il faut que tu tiennes dans un cadre et que personne ne sorte dans un cadre.
Ouais, voilà, tu essayes de rentrer, de coller à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc toutes ces personnes qui confondent leur idéal de soi avec la norme sociale, c'est ravageur. Ils ne peuvent pas être heureux, ces gens-là. Parce qu'ils cherchent à correspondre à tout sauf à eux.
Ouais.
Donc oui, c'est comme ça que je comprends ce que tu viens de dire par rapport à comment est-ce que la sphère publique vient s'insérer dans la sphère privée. C'est comme ça que je l'interprète, moi en tout cas, sur le plan psychique.
Quoi. J'ai vu ça entre autres chez des gens homosexuels. C'est-à-dire que parce que leur entourage, enfin, la société telle qu'ils la connaissaient, était en profond rejet en fait, de ça, et c'était vu comme quelque chose qui était anormal, et bah, de fait, eux ne pouvaient pas l'assumer. Et parce qu'ils ne pouvaient pas l'assumer, bah, c'est devenu presque une névrose, en fait, jusqu'à avoir des... Enfin, je pense à un cas particulier, mais... C'est devenu presque une névrose et une incapacité, en fait, à accepter sa propre homosexualité, même lorsque les paramètres ont changé et cette personne était dans un environnement où c'était devenu acceptable. Bah, ça, le tabou est resté et du coup, super transition, on passe sur le déni des traumas infantiles. Hein? parce que c'est ça aussi, tu vois, enfin, ce truc que... mais je pense que tu as des trucs... où tu vas justement confronter en fait tes propres besoins, ton expression de toi en fait à une norme sociale et si tu l'as du coup, enfin si tu peux pas exprimer qui tu es, au bout d'un moment ça risque de te peser plus tard, tu vois, enfin ça et ça peut être très bénin, c'est-à-dire que peut-être que ma passion pour la moustache de Magnum a très bien fait de rester dans mon enfance, tu vois, peut-être que c'est très bien que je ne l'ai pas transporté dans ma vie. Et donc je vis désormais une vie normale, mais bon, en tout cas cette idée que tu vas avoir voilà, des choses, des expressions de toi que tu vas pas pouvoir, enfin, où tu vas toi-même comment dire, étouffer on va dire, que tu vas étouffer en fait parce que tu veux t'assurer d'entrer dans un cadre. C'est quelque chose de très complexe, je pense. Et c'est peut-être pour ça que tu vas voir dans les gens qui viennent d'une autre culture, qui emménagent dans un nouveau pays, d'accord, expatriés ou immigrés, peu importe le terme que tu veux, et bah parce que leur culture peut-être est en décalage complet avec celle dans laquelle ils arrivent, et bah ils vont devoir peut-être taire certaines choses de leur culture, au risque de les perdre d'ailleurs, mais alors que ça peut être des choses qui sont un peu fondamentales à qui ils sont. Où ils vont devoir réapprendre de nouvelles normes qui sont un peu bizarres. Je pense à un truc en particulier. Par exemple, j'ai des copains d'origine asiatique qui ont l'habitude de ne pas regarder les gens dans les yeux. D'accord ? C'est assez normal lorsqu'on a une conversation. Je ne saurais pas l'expliquer super bien, mais en gros, c'est naturel pour eux lorsqu'ils se parlent, de ne pas se regarder. Je sais absolument pas pourquoi. C'est normal pour eux. Bah, tu mets ça à l'échelle sociale française, quelqu'un qui te montre son oreille pendant que tu lui parles, tu vas te dire, mais c'est qui ce connard? Tu vois, enfin, c'est... Et au même titre, en France, lorsque tu croises les gens dans la rue, les gens se regardent assez peu dans les yeux. Alors que dans les pays nordiques, par exemple, ou dans les pays anglo-saxons, s'il n'y a rien de choquant à regarder les gens droit dans les yeux. D'ailleurs, tu verras, par exemple, si tu vas, je sais pas, au Danemark, par exemple, c'est là que seul exemple qui me vient à la tête, tu croises quelqu'un dans la rue, il croise ton regard, il te fait un sourire poli. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Hein. C'est juste, il acquiesce ta c'est présence. Normal. Tu vois, c'est parfaitement normal. Tu fais ça à Paris, les gens vont te dire, mais c'est qui ce cheveu, tu vois. Donc, mais bon, tout ça, je voulais revenir en tout cas sur le truc plutôt des traumas infantiles. Qui donc également été donc listé par Johan Hari dans Lost Connections. Du coup là, bon, c'est quelque chose que je connais un peu moins, même si j'ai déjà travaillé avec des gens qui ont souffert de traumas importants, comme tu disais. Enfin, mais tu m'expliquais que c'est quelque chose qu'on peut voir finalement même à plus petite échelle, c'est ça?
Oui. Les... En fait, on est inégaux face aux traumas. C'est-à-dire que attentat de Paris, bon bah oui, ça fait c'est évident pour tout le monde que les gars qui étaient au Bataclan, ça fait trauma.
Ouais.
Et ouais, sauf que c'est dur à dire, mais il y a des personnes pour qui non, ça fera pas trauma. Ces personnes-là, on les entend pas en fait. Ces personnes-là, ils n'ont pas demandé d'aide, ils n'ont pas demandé qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Donc on n'est vraiment pas égaux par rapport au traumatisme. Et donc, les enfants, c'est pareil. Ça va dépendre de ton cadre, s'il est suffisamment sécur ou non, si c'est quelque chose qui est insidieux, et pendant toute ton enfance, ça va pas passer pour trauma, alors que si c'est quelque chose qui vient faire effraction de façon brutale, ça va faire trauma. Enfin, tu vois, ça peut être du côté du sexuel, ça peut être du côté de la violence, ça peut être du côté du psychisme, ça peut être du côté de l'absence de lien avec un enfant. Ça peut être du côté aussi du non-dit. Parfois, un enfant, j'ai vu ça il y a pas si longtemps dans mon cabinet, un gamin pour qui j'ai toujours pas compris pourquoi ses parents avaient autant mis sous silence des choses. Et ben, faut voir les traumas que ça a fait pour lui de en fait d'avoir été évincé d'une partie de sa réalité familiale. Tu vois, le trauma peut prendre différentes choses. En tout cas, il y a un aspect qui est hyper important, c'est que si trauma il y a, quelle qu'en soit l'intensité, quel qu'en soit le domaine, dans l'enfance, ça crée un rapport au monde. C'est-à-dire, plus tu vas être en capacité de comprendre le monde dans lequel tu vis, d'y mettre du sens, de voir à quel point toi tu es une petite, toute petite chose dans cet énorme rouage extrêmement complexe, l'enfant, lui, il va voir ça comme le... Je sais pas moi, prenons l'exemple d'un enfant qui a été battu. Il va prendre ça comme sa norme à lui, comme quelque chose qui rend compte du monde réel. Et donc, bien évidemment que ça va être très difficile de faire autrement dans la vie adulte que de remettre en cause cette croyance-là.
Ouais.
C'est-à-dire, un truc tout bête. Quand tu es bébé dans le ventre de ta mère, en fait, ce qu'elle mange, tu vas y être habitué. Et donc, si tu le manges, ou si on te le met dans la bouche, si elle te fait boire le sein, le lait du sein, et qu'elle a mangé la même chose, eh ben, en fait, le bébé va reconnaître les saveurs. Pour lui, c'est bon, c'est normal. Pas de problème. Donc, il va assimiler ça à un bon aliment. Même si c'est du lait, hein. J'ai un exemple parfait, c'est ma femme quand on était parti, que ma fille était un nourrisson, on est parti à La Réunion, ma femme a mangé des piments, ma fille ne voulait plus boire son sein.
Intéressant ça. Mais j'avais déjà entendu quelque chose comme ça, enfin ça change suffisamment la composition chimique et du coup c'est perceptible. Enfin.
Ouais, le goût pour elle c'était quelque chose, je pense, qui était, alors soit ça lui brûlait la gorge, soit Tout simplement, ce n'était pas quelque chose qu'elle avait eu l'habitude dans le milieu intra-utérin. Et donc, du coup, c'était peut-être assimilé à quelque chose de pas bon. J'en sais rien, hein, tu vois. Peut-être que tout simplement, ça lui piquait, et voilà. Mais ce que je
Oui, ou
veux dire
peut-être que
par
ça a
là,
juste changé
c'est
la composition et
quand tu es
suffisamment pour
enfant,
que...
ouais, quand tu es enfant, ce que tu as vécu prend une part importante de ton interprétation du reste, du présent et du futur. Et on est des êtres sociaux, on est des sapiens et tout machin, mais sauf qu'avant, on était avant tout des êtres émotionnels. Tous les noyaux et les zones de notre cerveau qui sont vraiment au centre, qui correspondent à notre cerveau limbique ou comment on appelle ça, primitif. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est ce cerveau-là d'abord qui interprète notre monde. Et c'est le cerveau émotionnel. Et c'est qu'après que ça va vers le cortex supérieur, c'est-à-dire la partie superficielle du cerveau, la partie la plus externe, et qui là est du domaine de la pensée, de l'analyse logique ou quoi que ce soit. Mais d'abord, la toute première chose qui nous vient, même en tant qu'adulte, hein, ce sont nos émotions. Et donc, c'est quels sont les câblages émotionnels qui ont été faits dans l'enfance. C'est pour ça que prendre du temps pour soi, sur soi, pour réfléchir à quelles ont été mes propres problématiques infantiles, comment s'est câblé mon vécu émotionnel, et comment est-ce qu'aujourd'hui, ce vécu émotionnel, à chaque fois qu'il est titillé, il va venir influencer ma capacité à réfléchir les choses. Tu vois, c'est hyper interrelié, c'est vraiment de l'ordre de la conséquence.
J'ai un super exemple pour ça. Enfin, super. Il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, j'ai un exemple pour ça. Qui est lorsque je fais mes footings, j'ai souvent un cardiofréquence-mètre, donc quelque chose qui mesure le rythme de mon cœur. D'accord? Et lorsque je vais par exemple courir en forêt, et ça va me permettre du coup d'arriver au lien avec la nature après, donc ça c'est super aussi. Mais je vais courir en forêt et je vais du coup avoir un rythme cardiaque qui va être relativement constant parce que mon effort varie assez peu. Et je sors de la forêt et je suis exposé au trafic. Donc typiquement à Paris, ce serait au bois de Vincennes, tu es en train de courir dans les bois, c'est super mignon, etc. Puis tu arrives sur ce qui est essentiellement une artère de l'autoroute. Comme ça, quasiment, boum, en l'espace de quelques mètres, tu vois. Et tout d'un coup, tu es à nouveau exposé à la ville. Et je vois systématiquement mon rythme cardiaque augmenter. Parce que tout d'un coup, je suis oppressé par mon environnement, qui n'est pas un environnement naturel du tout. Et il se normalise derrière, mais il fait généralement une petite hausse. Il se normalise derrière une fois que j'ai pris conscience que cet environnement autour de moi, c'est mon environnement de tous les jours. Mais au prime abord, tout d'un coup, cette augmentation de bruit et ces odeurs un peu âcres de véhicules et toute cette activité, eh ben, c'est perçu par mon corps. Et ça, c'est, enfin, parfois, moi, je m'en rends à peine compte, tu vois. Je m'en suis pas encore rendu compte que le rythme cardiaque a déjà augmenté.
Ouais.
Et ce n'est
Ça
qu'une
c'était
fois
mal
que je le
notre.
rationalise que ça se normalise et ça revient à un rythme cardiaque plutôt classique.
Mais c'est ça, c'est l'émotionnel
Ouais.
d'abord et avant tout. Et heureusement, parce que c'est ça qui crée notre instinct et nos capacités de fuite face à un danger. Par rapport à cette histoire de la perte du lien avec la nature, ben, je vais pas être un très bon interlocuteur parce que en fait, c'est pas un domaine que je travaille, qui se travaille particulièrement dans mes séances. Alors en psychologie, absolument pas. Ça, c'est, on n'en parle jamais. Mais la seule chose que je peux te dire par rapport à cet aspect-là, pour ma part, aussi bien en tant que personne que psychologue, c'est que ben, je sais pas exactement de quoi ça parle non plus, dans la mesure où moi, je n'ai jamais pu vivre en ville. J'ai jamais supporté ça. Donc, moi, si tu veux, je vis dans une ville de 22 000 habitants. Quand j'ai fait mes études, je suis allé à Grenoble, et à Grenoble, bah, tu fais 500 mètres à pied, bah, c'est bon, t'es dans la
Surtout,
montagne.
tu lèves les yeux, tu vois la montagne.
Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, je crois que dans ma vie, j'ai dû passer 3 mois à Paris. Au début, je me moquais des gens dans le métro, parce que je me disais, mais c'est quoi ces pantins? C'est quoi ces gars qui on dirait qu'ils vont tous mourir, quoi. Parce qu'il y en a, ils se regardent pas, ils sont pas capables de se faire un sourire, ils sont pas capables de se dire pardon, excusez-moi, je vous remercie ou quoi que ce soit. Et ça, c'était vraiment au tout début. Et comme je te dis, j'y ai vécu 3 mois, seulement 3 mois, et heureusement. Et je pense qu'au bout d'un mois et demi, j'étais rentré dans le moule. Je regardais plus personne. Quand je regardais quelqu'un, c'était dans la vitre du métro. Enfin, c'était dans le reflet du métro. J'avais intégré que, ben non, j'allais pas sourire aux gens et pas leur dire pardon, excusez-moi ou quoi que ce soit. Non, je bourrais tout le monde comme tout le monde. Et bref, donc je sais pas si la perte du lien avec la nature m'a rendu asociable et mal poli avec les gens, dans le métro notamment. Mais non, pour moi, c'est impossible. Votre vie à vous, là, dans les grandes villes, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui vous prend. Je sais pas comment vous pouvez accepter ça. Je ne sais pas comment vous pouvez tolérer ça au quotidien. C'est-à-dire que, jusqu'à il y a encore 3 ans, je bossais à mon cabinet, mais aussi je bossais 2 jours en institution à côté de Grenoble. Et j'avais 40 minutes de trajet. Et je me disais, faut que je me barre de là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je perds 40 minutes de ma vie le matin, 40 minutes de ma vie l'après-midi, le soir. Donc, moi, ça, la perte du lien avec la nature, ben, c'est peut-être parce que moi, je l'ai peut-être jamais vraiment perdu, que je comprends pas
Ou
c'est
moins
qu'est-ce qui
perdu peut-être, ouais.
moins perdu, ouais. Même pendant le confinement, enfin, moi, là où j'habite, j'ai la chance de, je fais 20 mètres sur la droite en sortant. En fait, je fais 200 mètres en descendant sur la gauche de ma maison, je suis en ville. Je fais 20 mètres en montant sur la droite, je suis à la campagne. Donc, du coup, bah, moi, pendant le confinement, tous les jours, j'allais me balader dans la forêt. Voilà. Du coup, ouais, j'ai peut-être perdu une partie du lien avec la nature, mais en tout cas, je suis dans l'incapacité de comprendre comment des gens peuvent vivre ça au
Ouais,
quotidien.
l'isolation complète, ça c'est quelque chose que enfin, moi je me retrouve à dire régulièrement, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à vivre à Paris. Enfin, c'est une des raisons qui m'a toujours dérangé, c'est que vivre en ville, je trouve ça gérable, moi. Mais par contre, je pense que j'ai ce besoin d'aller ailleurs, d'être en dehors de la ville. Et là où je trouve Paris difficile, c'est que, bah, comme toute grande métropole, et c'est pas Paris plus qu'une autre, hein, en fait, je dis
Oui,
Paris
moi je
où,
parle de Paris,
voilà,
mais
mais
c'est
c'est,
pareil avec
ouais, c'est
Lyon,
ça.
c'est pareil avec Marseille.
Une grosse métropole, d'accord? Une grosse
Ouais.
métropole, une grande ville, ce qui est compliqué quand tu vis dedans, hein, et non pas justement sur ses bords, c'est qu'il y a une difficulté, en fait, d'accès à la nature, et la nature, moi, je trouve, nous apaise. Et, enfin, et je dis ça pour moi, mais je fais aussi écho à toutes les personnes que j'ai entendues me dire ça dans ma vie. Hein, donc, je pense que pour le coup, je suis pas le seul. Mais cette idée qu'on est beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus apaisé en fait dans un environnement plus naturel. Hein, et donc, j'essaie de comprendre quel est le mécanisme exact, parce que je sais que j'ai bien compris que c'était quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand je suis dans un environnement plus naturel, et c'est pas encore une fois, c'est pas j'ai pas dit que tout le monde devait vivre en pagne dans la forêt et
Non,
faire des
c'est pas
câlins aux
ça.
arbres, même si je vois pas le problème en soi. Mais le fait d'être complètement déconnecté de ce truc-là, genre mais à 100%, c'est-à-dire que typiquement, voilà, je vis à Paris, je pourrais pas être beaucoup plus déconnecté, peut-être dans une ville comme New York qui est moins verte, je sais pas, ou à Singapour, peut-être des villes encore plus denses, tu vois. Mais
Los
enfin, je
Angeles.
crois que c'est plus dense. Mais bref, l'idée c'est que en étant complètement déconnecté de cet environnement, eh ben, il y a un truc qui manque en fait. Il manque un truc et j'arrive pas à mettre les doigts dessus. Je sais que c'est un sujet qui est connu, mais je pense qu'il n'est pas énormément étudié. J'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas trouvé un spécialiste de la rupture du lien avec la nature, tu vois. J'en cherche un d'ailleurs au passage. Mais et le truc, c'est que lorsque cette chose manque, lorsque tu la, enfin, comment savoir si quelque chose te manquait vraiment?
Mais
C'est
en
que
fait,
lorsque tu y es exposé, tu fais, oh putain, waouh,
ouais. Mais
tu
en
vois?
fait, tu vois, en t'écoutant parler, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que tu dis être déconnecté de la nature. Mais non, je pense que en fait, il faut prendre le problème différemment. parce que ça, c'est certainement un biais de pensée, c'est que la vie en ville, dans une mégalopole, voilà, peu importe laquelle, comme on a dit, c'est tu es tout le temps surstimulé. Tu es tout le temps en surstimulation. Enfin, moi, c'est ça qui me fait péter un câble à Paris, par exemple, pour reprendre encore une fois cet exemple-là. Désolé, mais c'est le bruit. Mais putain, il y a tout le temps du bruit, tout le temps. T'as pas un moment où t'es tranquille, où t'as de l'apaisement, où tu es plus sollicité. T'as pas un moment où, en fait, on te propose pas une publicité ou un truc lumineux qui clignote pour attirer ton regard. T'as plus un moment où tu dois faire attention, attention, là, il y a une bagnole. Ou t'as pas un moment où tu es pas hyper sollicité par des choses difficiles aussi. Hein. La pauvreté à Paris, elle est quand même dure.
Ouais, c'est dur. Hein,
je sais pas dans quelle mesure vous y faites plus gaffe ou quoi, mais moi, quand je vais à Paris, mais enfin, c'est tous les 20 mètres, j'ai l'impression que je vais m'effondrer de voir les situations difficiles de certaines personnes. La nuit, c'est encore pire. Bref, moi, je pense que cette hyper sollicitation, cette stimulation perpétuelle, c'est épuisant pour le psychisme. Et du coup, ben, la nature, c'est un moment où en fait, il n'y a rien qui clignote, il n'y a rien qui t'appelle, tu n'as pas à faire gaffe à rester en vie, parce que si tu marches en ayant la tête complètement ailleurs et en traversant entre deux arbres, ben non, tu ne vas pas te faire renfercer par un chevreuil ou quoi. Enfin, tu vois, tu es apaisé. Je pense que c'est ça le truc. Et donc,
Le Canadien que je suis te dira que dans mon environnement naturel, faut quand même que tu fasses gaffe où tu vas, parce que potentiellement ce sera pas un chevreuil mais c'est un ours qui va décider que tu passes au menu. Alors pas exactement au menu, mais il va se dire tiens toi je t'aime pas, allez bim.
Mais enfin voilà, je pense que c'est de ce côté là que je pourrais le prendre par rapport à cette histoire là de la nature.
Je pense que tu vois, enfin je pense que tu vois juste là dessus je pense que c'est ça, enfin en tout cas en partie, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est assez bien expliqué que, effectivement, il y a une surstimulation. Mais et donc ça potentiellement c'est le genre de truc que étant acclimaté au climat parisien par exemple à ce mode de vie parisien, certes je me sens très détendu lorsque je vais à la campagne, à la montagne et compagnie. En revanche, quand je vais à New York, qui est essentiellement ce même niveau de stimulation x10, je pense, et ben je suis agressé de toutes parts. Et donc l'agression que j'ai à Paris en fait finalement est encore plus visible parce que là elle est amplifiée et New York c'est plus de lumière, plus de bruit, plus de tu vois, enfin, et donc c'est ah bref, donc je pense que ouais il y a tout à fait de ça quoi, mais on a un timing à respecter malgré tout. C'était très sympa de mélanger à la fois conversation de comptoir et analyse psychologique un peu plus réfléchie. Donc, merci beaucoup de ta contribution, Jérémy. Et est-ce que tu peux dire, du coup, est-ce que déjà tu peux nous donner un petit peu un petit mot de la fin autour de ces causes de la dépression dont parce que là, c'est vrai qu'on a pas mal, on a un peu tourné en rond, on est passé d'une à l'autre. Et est-ce que tu pourrais nous fournir soit un conseil, soit une petite conclusion?
Alors, un conseil, non. Parce que
merci.
Des formations professionnelles obligent. Tu sais, les conseils qu'on prodigue, c'est toujours des conseils pour soi, en fait. Tu sais, je te conseille de faire ci. Moi, je ferais plutôt ça, tu vois. En fait, ce que tu fais, c'est que tu es en train de dire ce que toi, tu ferais dans une situation. Donc, si un psychologue vous donne un conseil, fuyez. Il est en train de parler pour lui. Mais donc, plutôt qu'un conseil, simplement... il ne faut pas oublier une chose quand même par rapport à tout ce qu'on a dit. L'auteur de ce bouquin que je n'ai pas lu, hein, j'ai oublié de le préciser au tout début, mais Lost Connections de Johan Hari, là, je ne l'ai pas lu. Donc c'est toi qui m'as guidé dans cette réflexion. Et on voit à quel point il parle du sens et du temps à prendre pour soi, de quelque chose de la réflexion pour soi, sur soi, Et de l'acceptation de soi. Ouais, ça fait pseudo-conseil, en fait, finalement, ce que je suis en train de dire. C'est comment est-ce que, pour arrêter de déprimer, punaise, si, je suis désolé, je vais faire le coach, donc je vais donner un conseil. Ah, je suis désolé, je me fais honte moi-même. Mais si, c'est vrai que j'ai un vrai cheval de bataille, et c'est pas simplement pour la dépression, c'est pas simplement pour l'anxiété. Ça marche pour tout. Et ça transpire, je pense, dans chacune de mes séances, et ça transpire dans peut-être dans chacune de mes vidéos aussi sur YouTube. C'est le fait d'être en position active. Je pense que quoi qu'il arrive dans notre vie, si on finit, et c'est ça qui est très difficile avec la dépression, c'est que la dépression crée un puits sans fond ou un cercle vicieux qui nous amène à cette position de passivité, de surpassivité, et il faut à tout prix se remobiliser. Je pense que c'est ça le plus important, que ce soit face à la dépression, face à l'anxiété, face au monde, face à la perte de sens, face à des traumas, face à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a abordé durant notre entrevue. C'est comment est-ce que moi, je peux me remettre en position active, en position de sujet, non pas qui va devoir subir les problématiques et les situations et mon environnement. Comment est-ce que je vais pouvoir mettre en avant quelque chose dans ma vie, dans ma façon de penser les choses, dans mes actes, pour être à nouveau acteur? Il y a un aspect. En psychopathologie, on a vu, il y a beaucoup d'études qui montrent que la dépression vient aussi à partir du moment où les gens n'ont plus le sentiment d'avoir un impact ou agir sur leur vie. Et à partir du moment où tu peux à nouveau reprendre les rênes de ta vie, ou au moins avoir le sentiment, c'est-à-dire que quand tu peux très bien continuer à être aux commandes de ta vie, mais si tu n'as plus le sentiment d'être aux commandes de ta vie, ça peut te faire déprimer. Et de même, tu peux être dans une entreprise X ou Y, tu peux être dans un couple où c'est compliqué ou quoi. À partir du moment où tu reprends le sentiment que tu as quelque chose à jouer, et que tu as ta place, et que tu as ta fonction, et que tu vas pouvoir faire changer les choses, c'est un excellent antidépresseur.
Bah c'est d'ailleurs ce truc d'avoir du mal à se projeter, c'est-à-dire que si t'as l'impression que tout ce que tu fais ne fonctionne pas ou n'a aucun impact, c'est quasiment impossible de se projeter. Donc on va se retrouver sur ce même chemin. Et moi j'ai le droit de faire le coach du coup, vu que c'est mon métier. Mais non, je pense que enfin, tu l'as assez bien dit. Le fait d'essayer de trouver une manière de redevenir acteur, c'est-à-dire que lorsqu'on est en situation de dépression, chose que, voilà, comme tu l'écris, tu l'as vécu, je l'ai vécu aussi, c'est une fois que tu redeviens acteur de quelque chose, et que tu en as conscience, parce que parfois tu agis sur des choses sans en être conscient. Mais une fois que tu as conscience que tu fais des actions qui, du coup, modifient en fait ta situation, tu n'es plus complètement désemparé. C'est peut-être encore très très dur, c'est peut-être encore très très compliqué, mais putain, t'as changé un truc, t'as fait un truc, ça a changé quelque chose. Et moi, du coup, ce que je peux déjà inviter aux gens qui se posent des questions et qui enfin, ont été diagnostiqués avec une dépression, se posent des questions, c'est de regarder vers des ouvrages comme Lost Connections, par exemple, parce que c'est exactement ce que le livre invite les gens à faire, en fait. C'est pas un mode d'emploi, mais c'est, il présente différentes choses qui pourraient être à la racine d'une dépression et présente des piste à réfléchir, c'est tout. Parce qu'en fait, finalement, parfois, il faut pas beaucoup plus que ça.
Ouais,
Parce que le, ouais.
la réflexion est une action.
Voilà.
C'est se mettre en mouvement déjà que d'être capable de réfléchir sur soi.
Voilà. Donc, ouais, donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est le fait de redevenir acteur, en fait, ou de prendre conscience que on l'est toujours. Aussi, parce que parfois c'est toute une question de perception. On a l'impression de ne plus être acteur de sa vie, alors qu'en fait on l'est toujours. Jérémy, merci beaucoup.
Merci à toi.
Est-ce que tu peux dire aux gens qui ont été passionnés comme moi par ton intervention où ils pourraient te trouver?
Ils peuvent me trouver, alors si c'est pour de la déconne, ils peuvent me trouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube Va te faire suivre. Et puis si c'est pour quelque chose de plus sérieux, ils peuvent taper sur votredivan.fr. Et puis c'est mon site sur lequel je propose des consultations à distance. Parce que bon, bah, je pense pas que tu n'aies que des auditeurs de Voiron dans l'Isère, donc je vais plutôt parler de ce site-là.
Tu sais quoi, j'ai peut-être un gros public, voire j'ai pas les données assez précises géographiquement parlant, donc je vais pas
Moi, je vais le
m'avancer.
partager en tout cas
Voilà.
quand le podcast sortira, je le partagerai sur ma page professionnelle de Voiron. Mais voilà,
Ouais, et
YouTube
d'ailleurs.
va te faire suivre et puis sur votredivan.fr.
Ouais. Et du coup, ta chaîne, effectivement, qui n'est pas une page de blagues sur la psychanalyse, mais bien une page de vulgarisation.
Voilà.
Donc, que je recommande, qui est vraiment bien faite. Donc,
Je te
merci en tout
remercie.
cas, merci d'avoir participé et merci de ton intervention.
Avec grand plaisir, merci.
Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à Olivier Durie, qui était mon invité dans l'épisode 11, et m'a mis en contact avec Jérémy. Il a donc rendu celui-ci possible. Merci à vous d'avoir écouté, et j'espère que ça vous a assez plu pour que vous le partagiez et que vous vous abonniez et mettiez une note sur votre application de podcast favorite. Vos commentaires font avancer l'émission, comme celui de Gaël, qui disait qu'interviewer un clinicien de la clinique du coureur pourrait faire un bon podcast sur le côté sport-santé. Eh bien, ça n'a pas raté, car on a eu Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur, et vous avez tout simplement adoré l'épisode, puisque c'est le plus téléchargé. Continuez d'envoyer vos idées pour que je sache quel contenu vous intéresse. À bientôt!